Bonsoir, bienvenue à la Maison des Métallos, donc dans le cadre de cette rencontre que nous organisons avec Eliane de la Tour, dans le cadre donc, de l'exposition que nous présentons en salle claire, Gouttes de nuit, Abidjan, les belles retrouvées, qui est donc à la maison, qui est vraiment une magnifique exposition, installation, voyage, qui a lieu donc jusqu'au 7 décembre à la Maison des Métallos. Voilà. Je vais prendre la parole juste quelques instants pour vous présenter la soirée. Donc, vous avez donc participeront à ce débat Eliane de la Tour, anthropologue, cinéaste, à l'Iris, auteur donc de l'exposition que je viens d'évoquer. On ne présente pas ou presque plus Françoise Héritier, que je remercie vraiment d'être avec nous ce soir, qui va donc modérer comme elle peut cette rencontre, qui est donc professeure au Collège de France. Catherine Deschamps, à côté d'elle, socio-anthropologue au laboratoire de Nanterre, et Véronique Naungrap, je suis désolée si je prononce mal, qui est donc anthropologue à l'École des hautes études. Voilà, donc le temps qu'on vous propose de partager ensemble, c'est donc un temps où elles vont débattre entre elles, et puis assez vite aussi débattre avec vous. Voilà, tout le temps de cette rencontre. Je vais passer le micro à deux personnes avant qu'on démarre. D'abord à Agnès Beldezé, qui est donc éditrice aux éditions HESS, qui a donc édité cet ouvrage en vente, j'imagine, dans les meilleures librairies de Paris, de France et de Navarre, qui est donc l'échange économico-sexuel, ouvrage à laquelle a participé donc Catherine Deschamps.
Merci. Merci d'être là pour cette nouvelle conférence du cycle Les agendas du politique. Cette série de débats est co-organisée par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales et le laboratoire d'excellence TEPSIS. Ces deux structures se sont liées pour débattre de sujets d'actualité, car toutes deux nous défendons l'idée que la recherche en sciences sociales fait sortir de nos évidences ordinaires, que ce soit par des débats ou l'édition de livres. Et je remercie tout particulièrement la Maison des Métallos d'accueillir justement ce type d'engagement et de diffusion de la recherche. Voilà, merci.
J'ai oublié de vous parler aussi quand même de la rencontre que nous organisons aussi demain avec Eliane, dont le titre est donc « Femme, auteur » au pluriel, avec un « e » et au pluriel, de violence. Voilà, c'est donc à 19h aussi demain avec Corinne Cardy et Fanny Bunion et Eliane de la Tour. Voilà, je vais inviter Hélène Bidard à nous rejoindre. Hélène Bidard est adjointe à la ville de Paris, égalité femmes-hommes. Je prends mon petit mot parce qu'il y a beaucoup de... Donc, égalité femmes-hommes, lutte contre la discrimination et droits de l'homme.
Merci beaucoup. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis très honorée d'être parmi vous et impatiente d'entendre les intervenantes et surtout... impatiente aussi, très heureuse que Madame Héritier soit là. Je tenais à venir pour vous dire que nous sommes le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, que la ville de Paris organise 4 semaines d'initiatives contre les violences faites aux femmes dans tous les arrondissements, avec des initiatives extrêmement diverses. Et je tiens juste à dire une chose, c'est que ces violences faites aux femmes, elles sont extrêmement diverses. Elles vont du harcèlement de rue au meurtre de femmes que nous appelons le féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme parce qu'elle est femme. Vous voyez, il y a tout un panel de violences envers les femmes. Et pour lutter contre ces violences, nous avons un travail extrêmement précis avec les associations au plus près des femmes et un travail extrêmement transverse. Et je dois dire que la question de l'égalité femmes-hommes, qui est en réalité ce qui est sous-jacent à toute violence faite aux femmes, est vraiment portée par la Maison des Métallos. Je tiens à souligner le travail de la Maison des Métallos. Vous avez vu les livrets dont le premier titre est « Femmes », qu'on voit partout grâce à la Maison des Métallos. C'est un travail et un engagement continu de la part de la Maison des Métallos pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences. Et donc, cette soirée s'inscrit à la fois dans notre travail municipal et dans un engagement continu de la Maison des Métallos que je tiens à saluer. C'est important pour nous parce que tout ensemble et tous ensemble, nous pouvons faire reculer réellement les violences faites aux femmes. Nous avons pour cela lancé un observatoire contre les violences faites aux femmes à Paris. Il ne s'agit pas de créer un outil qui fera des études uniquement. C'est extrêmement important que nous tirions des enseignements de ce que nous allons faire. Mais nous voulons surtout agir concrètement pour réduire les les violences faites aux femmes. Et cela passe par tout un tas de politiques publiques extrêmement précises, encore une fois, où nous cherchons à être très efficaces. Je crois que ce soir, nous allons aborder, en un sens, le thème des violences faites aux femmes, sous un angle particulier, il est vrai. Mais néanmoins, toute violence envers les femmes est un recul de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que vraiment, je tenais à faire le lien. Encore bravo à la Maison des Métallos pour votre action. Et puis, je serai donc parmi vous pour ce débat, très impatiente comme vous toutes, je le pense.
Bonjour à vous tous et un grand merci pour être si nombreux ce soir. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les violences exercées à l'encontre des femmes dans le monde. Et c'est ce jour qui a été choisi pour tenir cette table ronde sur les violences faites aux femmes. Et en illustration, vous avez eu la possibilité, pour ceux qui le souhaitaient, de voir cette magnifique exposition qui est présente à l'étage au-dessus, dans la Maison des Métallos, et qui traite d'un petit aspect seulement, mais un petit aspect tout à fait signifiant, c'est la prostitution de très jeunes filles, de 12 à 18 ans, sinon moins, 12 à 18 ans en gros, dans certains quartiers d'Abidjan, jeunes filles que l'on appelle des fraîchenies, et en français, et dont le nom local est Lego. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette exposition qui est tout à fait remarquable. Alors, moi, je suis là en tant que modératrice, donc je vais surtout donner la parole aux autres, mais je voudrais dire juste quelques mots. Lorsque nous parlons de la violence, des violences exercées à l'encontre des femmes, il ne vient à l'idée de personne de dire par qui. Les violences exercées à l'encontre des femmes, eh bien, il faut bien le reconnaître, dans toute l'histoire de l'humanité, et encore maintenant, ce sont des violences exercées par l'autre moitié sexuée de l'humanité. Ce ne sont pas, bien sûr qu'il y a des femmes qui exercent des violences contre d'autres femmes, et souvent dans les milieux de la prostitution, elles servent de relais. Mais il peut y avoir des violences exercées par les femmes. Mais généralement, ce sont des violences masculines. Il ne viendrait l'idée de personne d'énoncer la nécessité de faire une journée nationale des violences exercées contre les hommes, sous-entendu exercées par les femmes. Or, il est sous-entendu que ce sont des violences exercées par les hommes et personne ne s'y trompe. Alors, de cela découle toute une série d'interrogations. Alors, on nous parle d'une nature qui serait plus violente chez les hommes et qui serait fondamentalement dominatrice. Et on nous parle aussi d'accès de bestialité. Dans tous les cas, on a tout faux. Ce n'est pas une nature, c'est une culture. C'est justement parce que les humains sont capables de penser qu'ils ont érigé un système qui est un système de valence différentielle des sexes. Et cela s'est passé il y a fort longtemps, disons, aux aubes de l'humanité. Je n'irai pas prétendre que les humanités qui nous ont précédées, comme Homo erectus ou autres, Habilis, avaient déjà ce genre de raisonnement, mais Néandertal, certainement, il symbolisait, et Sapiens Sapiens, nous l'avons érigé, et comme il était facile à transmettre, il s'est transmis jusqu'à nos jours. Il était facile à transmettre parce qu'il portait sur des méthodes extrêmement simples et qui ont toujours cours aujourd'hui, et qui ont servi de modèle pour tous les autres modes de domination, du genre maître-esclave ou colonisateur-colonisé. C'est d'interdire la libre disposition de son corps à la partie de l'humanité que l'on veut dominer, lui interdire l'accès au savoir, lui interdire l'accès au pouvoir. Et si vous ajoutez à tout cela un langage qui est celui du déni, du mépris, du dénigrement, vous avez le langage même de la domination. Ce n'est pas simplement un épiphénomène, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, ce langage de la domination. Et il ne s'agit en rien de bestialité, parce qu'aucun des mammifères, je ne parle vous pas, mes connaissances ne vont pas plus loin, aucun des mammifères répertoriés dans le monde nous ne voyons jamais les mâles tuer leurs femelles. Il tue des femelles d'autres espèces, mais il ne tue pas et il n'agresse pas leurs femelles. Il ne les blesse pas. C'est le triste privilège de l'humanité et c'est pour la raison pour laquelle que je dis que c'est le privilège de la pensée. S'il n'y avait pas, si nous étions restés au niveau de la connaissance animale, y compris pour les grands singes. Hein. Les grands singes ne mettent pas à mort leurs femelles. Bon, il peut y avoir des peignées, comme on dit, de temps en temps, mais ils ne mettent pas à mort. Nous sommes les seuls où le mâle tue ses femelles. Donc, ce n'est pas une question de bestialité, ce n'est pas une question de nature, et parce que c'est une question de pensée, de culture, une construction mentale, qui a eu beaucoup de succès et qui continue d'en avoir, nous pouvons penser qu'avec la lutte, nous pouvons la changer. Parce que si c'était naturel, on ne pourrait pas. Mais on peut changer parce que c'est effectivement une histoire de pensée et de calibrage de la pensée. Alors maintenant que j'ai dit en gros ce que je pensais sur le fond, après je m'autoriserai peut-être de temps en temps à intervenir dans le débat, mais je vais donner la parole successivement aux trois personnes qui ont bien accepté de venir parler ce soir. Pour commencer à Eliane de la Tour de Jean qui est là à ma droite, qui est donc l'auteur de cette magnifique exposition que je vous invite à aller voir.
Merci beaucoup Françoise. Mais d'abord, ça marche ? Oui ? Un grand merci à toi, Françoise, d'être là, d'avoir été là au vernissage. Et je ne sais pas, ça me fait un plaisir, une tendresse de t'avoir ici. Et puis, ça fait longtemps qu'on se connaît et je suis ravie de tes mots introductifs. Je trouve que tout ça nous ramène dans une grande dimension. Et moi, je vais prendre dans cette grande dimension une petite dimension. Je voudrais aussi remercier la Maison des Métallos qui m'accueille pour la deuxième fois et qui accompagne ce travail depuis longtemps avec chaleur et intelligence, je trouve. Le TEPSIS aussi, qui est la cheville ouvrière à la fois de l'exposition elle-même et puis de cette rencontre ce soir. Et puis, last but not least, mon laboratoire, l'IRIS, où je me sens heureuse, soutenue, et j'ai l'impression que sans ce laboratoire, tout ça n'aurait pas lieu non plus. Voilà, je voudrais me saisir de la notion de victime plutôt que d'aller directement sur celle de prostitution et d'essayer plutôt de voir comment cette notion de victime apparaît dans certains registres ou au contraire est déniée. Comme dans l'imaginaire collectif ivoirien, quand je dis ça, c'est, disons, ce qu'on pourrait dire la vox populi. Ces filles ne sont pas reconnues comme victimes, parce qu'on dit qu'elles l'ont bien cherchée. Si elles vendaient des Kleenex ou des oranges ou des pagnes comme les autres, et non pas leur corps, elles n'en seraient pas là. Donc ce sont des mauvaises pauvres, parce qu'elles sont responsables du sort qui les accable. Et les bons pauvres, ce sont ceux qui sont innocents. Elles se retrouvent donc au banc d'une économie morale locale qui centre l'honneur des hommes et de la famille sur la pureté sexuelle des femmes, ce qui implique un contrôle des filles, notamment quand elles sont jeunes et pubères, virtuellement, parce qu'elles sont virtuellement porteuses de lignées. Et Françoise Héritier a parlé de ce pouvoir, depuis longtemps, de ce pouvoir exorbitant des femmes que les hommes n'ont jamais voulu leur laisser, et dont elle a rappelé, en d'autres termes, la problématique. Donc, ces filles fuient ces violences familiales, ce contrôle, ces assignations dont elles ne veulent pas. Elles veulent juste un peu plus d'autonomie, un peu plus de liberté. Et pour ça, elles opèrent une rupture avec leur famille. Et après différents schémas, se retrouvent dans la rue où la première chose qu'elles peuvent faire, entre énormes guillemets, c'est vendre leur corps pour s'assumer. Mais quand on vit de son sexe, on vit avec un corps qui est souillé, on a une famille qui est déshonorée et qui attribue aux transgressions des valeurs collectives qu'opèrent ces filles le mauvais sort qui peuvent les toucher. Les parents accusent les filles de la mort d'un des leurs ou le fait que le père a perdu son travail, et on est effectivement là dans ces interprétations en termes de sorcellerie, mais qui touchent extrêmement fort les filles qui sont maudites à ce moment-là et qui vivent dans la peur de la malmort. Si on prend la notion de victime dans les grandes politiques sociales internationales, ces filles sont reconnues comme vulnérables. Mais le problème, c'est qu'elles n'entrent pas dans aucune des catégories prédéfinies en haut lieu. Si on prend quelques-unes, les plus importantes, l'aide aux prostituées, par exemple, elles ne sont pas des prostituées professionnelles, elles ne sont pas dans les mêmes lieux. C'est des prostituées de ghetto. Pas une seule prostituée dite professionnelle ne mettrait un pied dans un ghetto de la même façon que les clients ne sont pas les mêmes. Les campagnes contre le sida, qui ont été extrêmement nombreuses en Côte d'Ivoire, elles ne les touchent pas parce que ces filles refusent que des acteurs du sida viennent chez elles, parce qu'elles voient dans cette problématique du test un redoublement de la perspective de d'un redoublement de discrimination. Donc elles refusent. Si on prend les violences faites aux femmes, ce qu'on appelle communément dans le langage humanitaire les VBG, les violences basées sur le genre, en Côte d'Ivoire, les ONG qui traitent de ça traitent essentiellement des violences domestiques. Donc ça ne touche pas ces filles. Et quand il y a viol, la police ne reconnaît pas le viol pour des filles qui se vendent à tout le monde, parce qu'on pense qu'il y a un consentement tacite, de toute façon. Maintenant, si on prend la notion de victime dans les instances politiques et juridiques du pays, ces go peuvent être officiellement reconnus comme victimes. Il y a un arsenal de lois, des condamnations pour tout ce qui est reconnu comme une infraction, tout ce qui va à l'encontre des droits humains de la condition féminine. Mais là aussi, il y a un grand mais, c'est que la plupart de ces victimes n'accèdent pas aux politiques. D'une part, de façon évidente, banale, on peut dire la pauvreté, le manque d'éducation, le sentiment d'appartenir aux inessentiels, mais surtout parce qu'il y a un enchevêtrement de systèmes de dépendance multiples, internes à la société, historiquement parlant, le droit d'aînesse, par exemple, qui est encore très puissant jusque dans les ghettos, évidemment la relation homme-femme, des multiples formes de clientélisme avec des échanges entre protection ou soumission, des avantages contre des dépendances. Et cette espèce d'imbroglio de liens que j'appellerais privés, presque féodaux, voire mafieux, fait comme un tampon entre la société civile pauvre et l'État et le politique. Et la corruption, qui est générale dans ce pays, accentue la prévarication de ces liens, rendant le tampon encore plus épais et mettant à l'écart les plus démunis. Ils n'ont pas accès, par exemple, aux soins publics, les hôpitaux. Si une fille arrive, je l'ai vu de mes propres yeux, enfin presque, disons, je suis arrivée après, une fille qui était au bord d'accoucher, qui perdait ses os, qui est allée avec une amie en taxi à l'hôpital, on l'a chassée parce qu'elle n'avait pas l'argent. Pareil pour la justice, il n'y a pas d'avocat commis d'office, donc il n'y a pas d'accès à la justice. Et puis, la police. Il n'y a pas d'accès normal à la police. Il y a des contacts avec la police. Mais ces contacts se font au mieux avec une leçon de morale, au pire avec des rafles. La police descend dans les rues où les filles travaillent, leur arrache l'argent qu'elles ont gagné et souvent demande de payer en nature. Même s'il y a consentement, moi j'estime que c'est un viol parce que c'est un abus de pouvoir. Et j'ai travaillé pendant 2 mois à la brigade des mineurs, c'est un tout petit endroit, avec un commandant qui était totalement dépassé et qui regrettait que la police ne réfère pas les mineurs à la brigade des mineurs, qui ont eu une formation en France pour pouvoir aider les jeunes filles à verbaliser, à exprimer une plainte. La police retient dans les grands commissariats pour pouvoir, dit-il, négocier avec la famille, encore dans ses relations de corruption. Je parle même pas de formation, d'accès à la scolarité. Tout le monde sait bien que dans des familles pauvres, on met d'abord les garçons à l'école avant les filles. Et quant aux politiques sociales, elles sont inexistantes parce qu'on a affaire à un État qui actuellement privilégie toutes les infrastructures pour pouvoir recevoir des multinationales et il n'y a pas de politique sociale. Donc l'ego de nuit se retrouve nulle part. Comme je disais, des nobodies, pour reprendre le terme anglais, dans les politiques publiques, et des filles disqualifiées, foutues, pour reprendre le mot exact en ouchi, ce français de rue, au sein de cette culture mafieuse qui est extrêmement développée à tous les échelons de la société, mais en particulier qui a fait l'objet de développements particuliers dans la jeunesse ghettoisée, avec ce qu'on appelle le bluffing, le faro-faro. C'est toute une représentation de soi à travers des images de parvenus qui doit montrer ses acquisitions d'argent rapide, la richesse immédiate, instantanée, visible aux yeux de tous. Et c'est ancien, puisque c'est pas du tout la jeunesse d'aujourd'hui qui a inventé ça, puisque déjà Bédier sous Houphouët Boigny faisait des jubilés à chaque milliard qu'il avait gagné, entre guillemets. Mais aujourd'hui, cette représentation du paraître de manière extrême a pris des formes extravagantes avec le coupé décalé, qui est non seulement un mouvement de dance music, mais aussi où les jeunes ont récupéré des vieilles traditions griotiques, où le griot, en chantant des louanges, des grands, fait pleuvoir la manne sur lui. Ils ont récupéré ça dans les boîtes de nuit. Les griots. Les griots sont aujourd'hui des DJ en boîte et on fait ce qu'on appelle le travaillement, c'est-à-dire qu'on prend une personne et on essaye de lui faire sortir le plus de billets de banque de la manière la plus ostensible possible. Il y a aussi le broutage. Le broutage, c'est la cybercriminalité des jeunes. Ça, vous devez aussi connaître, c'est par essaye d'attraper des victimes ici dans la société, des victimes dans le désarroi, ici chez nous, et qui espèrent trouver un peu d'amour et de réconfort en Côte d'Ivoire et passent par les arnaques par Internet. Et donc, dans cette culture mafieuse, je ne trouve pas d'autres mots pour le moment, ces gos n'ont pas de représentation non plus. Elles, parce qu'on estime qu'elles n'ont pas suffisamment de respect d'elles-mêmes puisqu'elles ne s'habillent pas, elles ne s'habillent pas choc, elles ne sont pas dans la choquetance, elles ne s'habillent pas chic, donc elles sont hors de ça. Leur corps est livré peu cher, donc elles ne valent rien en tant que sur le marché. Leur corps ne vaut rien, donc elles-mêmes à l'intérieur ne valent rien non plus. Et on dit qu'elles apportent la poisse par la maladie, les coins sales où elles travaillent, mais néanmoins, elles intéressent les féticheurs et les marabouts parce que leur corps, même si c'est un corps, un nobody, c'est quand même un corps humain qui est prisé dans les sacrifices humains. Et elles font partie des victimes premières de cette sorcellerie qui maintenant est vouée à l'enrichissement et à l'acquisition de pouvoir immédiat. Donc, ces filles sont apparemment comme ça, hors de tout, mais il ne faut pas les imaginer comme passives. Elles sont certes victimes, mais elles ne sont pas passives devant les regards qui les disqualifient. Et je l'ai senti quand je suis arrivée sur les sites de prostitution et que j'ai photographié, ces sites de Freshny dont parlait Françoise tout à l'heure, qui sont des ghettos où il y a des dizaines et des dizaines de filles qui se vendent. Elles entrent là-dedans vers l'âge de 8-10 ans et puis elles en sortent vers 22-23 ans. Et j'ai senti qu'elles voulaient poser pour moi. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire un travail photographique, parce que si je suis cinéaste, je photographie très très peu, sauf s'il y a quelque chose qui tout à coup est chevillé au corps. Et à ce moment-là, je sors mon appareil et j'en fais quelque chose. Et j'ai compris que le rôle de la photo, que la photo par le portrait que j'ai travaillé avec elle, a été un lieu de valorisation personnelle. et que ce portrait leur donnait une singularité, puisque chacune véhicule son émotion qui lui est propre, ce qui permettait de sortir de cette interchangeabilité mercantile du corps qui est vendu. N'importe quel corps vaut n'importe quel autre. Et tout à coup, la photo, le portrait, leur donnait une image d'elles-mêmes qu'elles pouvaient socialiser, puisque c'est des photos qu'elles ont envoyées à leurs parents pour montrer qu'elles n'étaient pas des péons, des putes, pour montrer qu'elles pouvaient contrer les récits qu'on pouvait faire d'elles, sales et méchants. Et donc, elles se sont servies de ces photos pour s'approprier une image qu'elle voulait d'elle-même, qu'elle voulait montrer d'elle-même. Elle pose sans phare. Je les ai photographiées sur les sites de prostitution avant 18h, le moment où elles mettent leur peinture de guerre, si j'ose dire, leur masque pour aller sur le trottoir. Et j'ai eu l'impression que cette manière de poser de manière naturelle, sans phare, juste avec la force du regard, était une manière d'essayer de garder possession de soi et de trouver un passage vers les autres. Donc la photo a construit une réalité qui s'opposait ainsi aux assignations majoritaires. Et c'est de l'extérieur que vient l'image qui les dégrade, et c'est à l'extérieur que les photos ont été exposées. Donc c'était aussi à cet extérieur, pour elles, une manière de dire oui, oui à cette publication, oui à être dans la lumière, oui à sortir de la clandestinité, pour se projeter avec fierté. Et dans ce petit instant, entre le moment du travail de la photo, du tirage, et puis ensuite ici les métallos, et ensuite le public qui vient regarder, il y a un petit chaînage par lequel leur honneur passe, leur honneur se rétablit. Et la photo, donc, aussi a donné non seulement une image d'elles-mêmes avec laquelle elles sont en accord, contrairement à celle, leur image sociale, ça a donné aussi une image à leurs blessures. Elles ont été reconnues ici, parce qu'elles voulaient bien que j'expose les photos ici, chez mes frères blancs, comme elles disaient, parce que dans ton pays, là-bas, il y a sentiment. Donc, elles ont été reconnues comme victimes ici. On a compris leur douleur, on a compris que cette douleur avait une cause extérieure, que ce n'était pas de leur responsabilité. Et ça a été transmis très concrètement par des dons que j'ai pu apporter là-bas. Donc elles ont vu concrètement qu'ici, on pouvait avoir de la compassion et de l'empathie pour elles, puisque ça a permis de démarrer ce projet humanitaire qui était la Casa d'Ego et aujourd'hui qui se transforme en une ONG plus large, internationale. Et elles savent parfaitement, depuis le début où j'ai commencé avec elles, en 2009, elles savent parfaitement qu'elles sont partie prenante de ce combat, de ce chemin en tout cas, de ce chemin. Elles ne sont pas simplement des bénéficiaires, elles ont participé activement, ce qu'elles n'hésitaient pas à dire au moment du projet humanitaire, aux éducateurs et aux assistants que j'embauchais pour tenir ce projet, les assister, les aider, etc. Elle disait toujours, mais toi, tu cries sur moi, mais n'oublie pas que argent, tu manges là, habit, tu t'habilles avec, c'est argent de nos photos. Donc, elles savent que c'est de leurs photos, et c'est de l'accord qu'elles m'ont donné pour la publication de ces photos que tout ce projet s'est mis en place. Et je pense que ça a été important, cette espèce de jonction absolument pas prévue de la photo, de ce travail photographique, de la possibilité d'exposer, d'être ici, de traverser la mer, d'être ici, d'être que leur visage soit ici devant vous. C'est important qu'il y ait un regard sur elles pour qu'elles puissent rentrer dans ce temps et dans ce temps social et puis cette séduction dont on a tous besoin pour revenir au centre. Voilà, merci de votre attention.
Juste dire que c'est un magnifique travail, si vous avez bien compris, commence en ethnologue, en photographe, en cinéaste, et se termine en animatrice d'une ONG et qui œuvre pour cette reconstruction des personnes et qui retrouve la confiance en elles et l'honneur qu'elles croient perdu, parce qu'on leur a dit depuis toujours qu'elles étaient la cause de la ruine de l'honneur de la famille. Je passe la parole parce que j'ai regardé l'heure, c'est vrai qu'il passe très vite. À Véronique d'abord, pour terminer avec Madame Catherine Deschamps. Véronique Naumkrapp.
Merci, merci de m'avoir invitée et d'être là et de participer à cette aventure ensemble ce soir. Alors, quelques points de réflexion, donc pas tellement un exposé organisé, à la fois, d'une part, la photo, le temps de la photo, sur cette question de la peau, de l'enfance. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est une paradoxale chasteté qui entraîne une liberté et un honneur sur la photo. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je peux imaginer qu'une très jeune femme qui se voit sur la photo se dit « c'est moi et c'est pas moi ». Et cet être-là qui est sur la photo, qui est elle, est ailleurs, puisqu'hors du temps. Et donc, voilà, c'est l'enfant, c'est la femme qu'elle sera plus tard, peut-être âgée, ça la sort de sa situation. Peut-être plus encore que le film autobiographique qui plonge dans une trajectoire avec tous les paramètres. Mais la photo, ça sort de là. C'est à la fois très physique, très matériel, c'est hors temps. Je trouve que ça sort comme ça, c'est comme un point, la ligne. Mais le point n'est pas dans la ligne, ça sort de la condition d'une façon un peu magique et réelle à la fois. Et je trouve que ça vaut la peine de réfléchir à ça. Et ça, vraiment, bravo, c'est une chose bonne. Alors, autre chose aussi, concernant la violence et les femmes, et ce cercle infernal et cette question de la victime. Ça m'a frappée, j'ai eu cette information d'Armelle Lebras, qui est historienne et démographe, elle me dit, on estime qu'il y a environ 100 000 femmes en Europe entre le XIIIe et la fin du XVIIe siècle qui ont été brûlées comme sorcières. Je pensais qu'il y en avait eu, je ne sais pas, 3 000, enfin, 100 000, je ne sais pas. Je donne mes références à Armelle Lebras. Personnellement, je trouve ça hallucinant. Voilà. Et l'histoire des femmes n'est pas faite. Alors, le chiffre oublié, quelqu'un vous dira, mais non, comment est-ce possible, etc. Je renvoie à notre collègue. Mais sur le fait, si vous voulez. Donc, il se trouve qu'il y a des situations où les plus vulnérables, les lépreux, ils ont une maladie terrible, des femmes, certainement, qui cumulent des facteurs, non seulement, je ne sais pas, elles sont rousses, elles ont les deux dents de devant écartées, elles sont très jolies, elles sont plutôt marrantes, un peu bizarres, ou je ne sais quoi. Et puis tout à coup, autour d'eux, pour X raisons, mais les facteurs certainement de vulnérabilité très sociologique, c'est-à-dire de précarité, c'est classique, quand même, c'est la base, mais aussi d'autres qui tiennent peut-être à des détails. Je me souviens, ces violeurs dans les textes de Rousseau qui étudient les viols collectifs au XIVe siècle dans les vallées du Rhône, voilà, les viols avaient masqué, etc. On disait à un violeur, mais pourquoi ? Il a dit, parce qu'elle riait volontiers. Ça m'a frappé. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, les plus vulnérables dans un groupe donné en situation à l'échelle du présent, si vous voulez, vont être chargés d'une telle, je ne parle pas du bouc émissaire, c'est pas ça, mais l'ensemble de la négativité collective, bon, c'est quand même un peu ça, va s'abattre sur elles jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on les brûle, dans certains cas. Parce qu'on peut supposer, en 2014, que les sorcières n'étaient pas des sorcières, puisque le fait de sorcellerie reste, n'est-ce pas, approuvé. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est infernal, cette façon, ces mécanismes de la pensée collective qui, tout à coup, s'organisent pour, sur des siècles, faire que la victime n'est pas perçue comme victime, mais comme celle par laquelle, le contraire, c'est elle qui porte la menace, comme portant une menace, et du coup, la chose s'inscrit et continue, et n'a pas de fin, et on n'en fait même pas l'histoire. Et je veux dire, ces très très jeunes filles, 8 ans, 10 ans, donc voilà, qu'est-ce qui les a amenés là, comment, et qui sont dans ce cercle vicieux d'une société, il y a Internet, il y a la police, il y a les anthropologues, heureusement qu'il y a les anthropologues, et etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et tous les pas qui pourraient être mis de côté pour s'en sortir, là, elle va à l'hôpital, et bien non, elle n'a pas. Elle demande aux policiers, ils la violent en plus en disant, etc., qu'on a l'impression d'un cercle infernal où on ne peut pas sortir de cette négativité qui se termine par aussi une négativité sur, évidemment, sur ce qu'on pense de soi, je l'imagine. Je me souviens, Françoise, dans un séminaire avec vous au Collège de France, et cette dame prostituée du bus des femmes qui avait dit, qui était venue, qui avait parlé des 70 cahiers qu'elle avait fait faire, etc. Ça, je me souviens très bien de ça. Et elle avait dit, ces femmes qui disent, au corps morcelé, justement, elle disait, je ne suis rien. Elle dit, d'elle-même, elle dit, je ne suis rien. C'est dire, je ne suis rien. Donc, vous voyez, ce poids des hontes sociales, l'échelle des mépris, des hiérarchies, etc., qui s'abat sur la plus vulnérable, qui prend cette échelle des hiérarchies et des mépris comme une réalité, je ne suis rien. Donc toute cette espèce d'engrenage qui fait qu'évidemment, quand on apprend que celle qu'on ne veut même pas définir comme victime, puisqu'elle est bien coupable de ce qui lui arrive, quand elle fait sa peinture de guerre, quand elle regarde croise le regard de l'anthropologue et de l'objectif, et qu'il y a cet éclair de liberté d'être un peu ailleurs que là où on est, ça c'est un grand moment, et elles sont ailleurs, parce que les victimes sont toujours aussi ailleurs que là où elles sont, et on a du mal à assigner une étiquette sur un être humain. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, quelques points de difficulté, à mon avis, concernant notre thème. Celui-là, en pensant à ce cercle infernal des violences, en pensant à la question des violences sur les femmes, je trouve qu'on est, 2014, à une époque où l'affaire se judiciarise d'une façon extraordinaire. Les viols de guerre sont notés depuis 1993, dans les crimes de génocide par les tribunaux internationaux, la juridiction de protection contre les femmes, et en même temps, à la fois dans les images, mais dans les pratiques, on voit la chose flamber. Les viols de guerre n'ont jamais été aussi présents. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet, hein, mais de façon ahurissante. Et dans la réalité, on ne va pas rentrer dans le sujet, l'affaire est compliquée, mais aussi dans les images. Donc, est-ce qu'il faut penser, comme Devreux, que plus on dénonce quelque chose, plus on le constitue comme modèle d'inconduite, ça ne le fait pas, ça. Mais si tu veux le faire, regarde comment le faire. Où les jeunes, on apprend tous, les jeunes truands apprennent à faire des casses en regardant au cinéma, on le sait. Les policiers apprennent à arrêter les gens et à faire leurs histoires d'amour au cinéma. Mais voilà, les violeurs aussi. Et donc, si vous voulez, et pas au cinéma, mais aussi dans le jugement négatif. Ce que tu condamnes, tu le constitues comme un crime horrible. Mon Dieu, et tu le constitues en modèle d'inconduite, et ça, il faut réfléchir. Parce que, alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'inquiétante séduction dans les images érotiques liées à la violence contre le corps des femmes. À tel point que, avec une culture très prédictive, d'ailleurs assez, pas très imaginative, voilà, on pourra en parler si vous voulez, on ne va pas rentrer là-dedans, la question du sadisme et tout ça, mais les bandes de très jeunes filles qui s'entre-injurient entre elles, puis enculées avec des arguments, avec ce lexique des injures sociales qui utilisent les gestes de l'amour physique humain. Hein. Pourquoi ? Quand on injurie dans la rue, quand deux hommes s'injurient, quand on injurie une femme, ils prennent les pratiques de l'amour sexuel humain qui m'ont dit, voilà, c'est comme ça, hein, bon, et on n'est pas des escargots, les escargots font différemment, nous, ils le prennent comme lexique de l'injure. Quand un chauffeur de taxi va te faire aimer, j'étais très surprise. Je disais, plutôt gentil, tu vas te faire aimer. Puis après, j'ai compris. Va te faire aimer parce que zut, n'est pas merde, et aimer, c'est pas baiser. Hein. Va te faire enculer. Voilà, je m'excuse, on est entre nous. Et donc, si vous voulez, voilà. Et on injurie. L'injure, la haine s'exprime avec les gestes de l'amour physique humain. C'est d'une étrangeté absolue. Très très embêtante pour les femmes parce que c'est toujours la sexualité très active, celle qui pénètre, la violente, qui est mise en scène. Et il me semble qu'il faut réfléchir à cette question de la sexualité, qui est un fait social assez important, et dont on a toute une imagerie libertaire, extatique, c'est fini, les bourgeois des films de Buñuel, frustrés, etc., etc., ce que Freud, etc., c'est fini. Et donc cette sexualité, il me semble qu'elle a sans doute plusieurs facettes, et on ne va pas ici, mais je pense qu'il faut penser la question de la domination comme vertige, comme ivresse spécifique, dont le comble de l'épanouissement virtuel, parce que c'est virtuel la domination, ça ne touche jamais. Dominer qui ? Donc il faut voir les textes de Victor Hugo sur Caligula et Néron. C'est voilà, transformer, non pas tuer tout le monde, mais les transformer en automates. La mort est trop douce. Les posséder, les pénétrer de tous les côtés, en faire d'une foule une sorte
pour la couper, disait Victor Hugo. Qu'est-ce que la domination à son extrême, c'est quoi? C'est une chose extrêmement virtuelle. Et dans cette chose virtuelle extatique, il y a la sexualité, à mon avis. Et donc, les viols violents sont des actes de domination, non pas le pouvoir, rien, mais parce que la domination, il y a une problématique de vertige et de, je dirais, une discordance, une aporie, une difficulté pour le pauvre être humain qui veut dominer, le pouvoir. Voilà. Et alors voilà, ça y est, il a le pouvoir, il est au sommet. Et il y a un corps humain en face de lui, et le comble de la domination, c'est quoi? Je pense que la sexualité et domination, statut de la sexualité dans les images, charme, séduction des images sexuelles et de la violence sexuelle, je pense qu'il y a un problème, il faut qu'on réfléchisse, et bien sûr, je n'ai pas de solution. Dernier point de difficulté, après je m'arrête. Il me semble qu'on a un peu... Moi, je suis frappée par le fait, si vous voulez, qu'on a tendance, et ça fait du bien, et ça repose, d'imaginer donc les femmes. C'est vrai que les hommes tuent, sont les acteurs des crimes de sang, c'est dans les statistiques, et des statistiques transnationales. Hein, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas... Bon. Et leurs victimes sont des hommes à moitié, mais à moitié des femmes, et souvent des femmes de leur famille qui veulent les quitter, ou qui les embêtent, ou etc. Les femmes tuent beaucoup moins les hommes qui les quittent, et elles sont beaucoup plus quittées, que les hommes qui sont quittés tuent les femmes qui les quittent. Ils les tuent beaucoup avec les enfants parfois. Puis ils sont très malheureux, ils essayent de se tuer aussi. C'est pas, personne n'est gentil et méchant dans cette affaire. On qualifie des situations en termes de rapport de force, on ne parle pas de morale. Peut-être que c'était des vipères épouvantables, des méchantes, perverses ou je ne sais pas quoi, qui ont rendu fou ce pauvre malheureux garçon. Mais sa culture de la violence à lui, c'est qu'il tue la femme qui la quitte et les enfants avec. Toutes les semaines, nous avons des faits divers. D'hommes qui tuent femmes et enfants qui les ont quittés, ou seulement les enfants, ou seulement les femmes, ou etc. Et ils essayent après, bien sûr, de se tuer un petit peu. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que les femmes, on voudrait imaginer, dans un immense film d'Abel Gance, comme vous aviez dit une fois, Françoise, les femmes feraient les femmes, les hommes feraient les hommes, et il y aurait une guerre formidable, personne ne gagnerait, mais au moins il y aura un fossé assez clair. Bon. Les femmes font les enfants des deux sexes. Et les femmes, contrairement, je ne sais pas, à la population des ouvriers du 19e siècle qui, face au patron dans les manifestations, n'étaient pas amoureux de leur patron. Leur patron, ils s'en fichaient complètement du patron, en réalité. Ne pas aimer, c'est une grande liberté absolue. L'indifférence, la haine, c'est embêtant. C'est une espèce de fureur qui ronge et qui rend fou. Mais l'indifférence, c'est fort, c'est très fort. Rien de mieux pour la liberté dans les luttes. Mais la femme qui aura l'enfant du viol, dont elle sait que plus seule qu'elle, il y a lui, et elle ne peut pas le supporter, est-ce qu'elle le est, est-ce qu'elle ne l'est pas, quelle est la nature du lien avec lui? C'est un petit garçon, l'enfant du viol imaginaire est toujours un petit garçon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le est, elle le met à la poubelle, elle le, voilà, comme a dit cet ami d'Amnesty, elle le recueille en disant « plus seule que moi, il y a lui ». Et parce que, oublions la filiation avec le père, la femme qui est battue par son propre fils, vieille, elle est vieille, elle a tout fait pour lui. Elle n'a pas compris qu'il était un petit peu psychiatrie, aurait peut-être aidé. Enfin bon, il fait 1m80, elle fait 1m55, elle pèse 38 kilos, et lui, voilà. Et il lui fout des danses parce qu'il veut la thune. Et elle, on est dans le film d'Abel Gance, Les femmes contre les hommes. Quel est le lien à ce grand garçon qu'elle a vu naître? Et comment penser qu'elle reçoit cette violence? Parce que bon, les maris, ok, mais je veux dire, la complication, l'aporée avec les femmes, du lien affectif, social, affectif, appelons-le social, affectif, avec les membres de la famille des deux sexes, qui les menacent et qui sont violents. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le cas de figure des ouvriers, des luttes sociales, des esclaves qui se battent, qui font les révolutions, qui prennent la Bastille, etc. Comment elles font? Elles ont les enfants des deux sexes. Elles ne vont pas tuer les uns et garder les autres. Ça, non, ça me semble difficile. Et elles les aiment. Et elles les aiment. Il faut que les féministes acceptent ça. Elles aiment les fils qui leur foutent des trempes. Et elles aiment le gars qui les a séduits, mon Dieu. Tout un travail pour décider qu'elles ne l'aiment plus. Liberté de l'indifférence et qui peut crever la bouche ouverte. Elles s'en fichent. Mais ça, c'est un travail. Ça dure des mois. Il faut être aidé. Elles l'aimaient. c'est compliqué, la question des femmes et des hommes, elle est compliquée. Et je voulais, je me suis souvent empêchée de le dire, gênée en disant, zut, c'est pas très scientifique, féministe, marxiste, ce que je vais dire. Maintenant, à mon âge, je le dis. C'est compliqué, il va falloir réfléchir à ça, le lien affectif, social, entre membres d'une même famille ou des alliés ou des amis. Ce n'est pas une question de choses familiales, vous voyez, mais ces liens du vivre ensemble, ça peut être... voilà. Et ces liens dans le piège de la violence contre les femmes. Et à mon avis, il faut vraiment différencier les cas de violence des étrangers dans les guerres, les tournantes, etc., des cas de violence intrafamiliaux, les incestes, etc., où les petits garçons, ne les oublions pas, mais où les filles sont la majorité des victimes. Et il y a un trouble dans leur tête, et l'affaire est extrêmement compliquée pour elles, et beaucoup de femmes qui ont envoyé en prison le père incestueux sanglotent aussi. Et beaucoup de femmes qui n'ont pas envoyé en prison le père incestueux refont des tentatives de suicide à 90 ans, j'ai un exemple précis. J'en parle parce que je sais, j'ai eu accès à un dossier. Alors voilà, ça c'est la deuxième chose compliquée. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que voilà.
Merci Véronique. Je pense que tout le public apprécie comme moi l'originalité de vos pensées et l'originalité de vos présentations qui rendent toujours leur écoute absolument stimulante et ça vraiment c'est un bonheur. Alors maintenant vous aurez le privilège de terminer, de prendre la parole maintenant derrière ces deux oratrices et je sais que vous venez de sortir un ouvrage collectif avec... Un autre chercheur
avec Christophe Broca et la collaboration de Cynthia Cross.
Ça s'appelle l'économie.
L'échange économico-sexuel.
Là, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crains avoir beaucoup moins de talent que Véronique et que Eliane. Mais juste dire pour commencer, dans ce que tu disais, Eliane, sur comment le portrait, les photos, permettait de sortir les personnes, les jeunes femmes que tu voyais de l'interchangeabilité dans laquelle peut-être elles pensaient être. Moi, ça m'a évoqué, à l'inverse, je trouve ton travail absolument magnifique, une immense difficulté sur mes terrains, et j'ai fait un long terrain sur la prostitution de rue, avec des prostituées femmes, hommes de rue en Ile-de-France. J'ai jamais osé prendre des photos. J'étais excessivement... gênée par cette possibilité-là, et j'avais l'impression que c'était impossible. Déjà aussi dire merci aux organisatrices, éteurs, mais c'est surtout des organisatrices, je crois, et puis à Françoise Héritier d'être avec nous. Pour la petite anecdote, j'ai fait ma thèse au Labo d'anthropologie sociale, et Françoise... vous n'étiez plus toujours là-bas, mais en tout cas, on occupait votre bureau sans que vous le sachiez, quand il n'y avait pas de place ailleurs, au labo d'anthropologie sociale. Ce dont je vais parler peut sembler moins lourd, moins terrible que ce qu'ont raconté Eliane et Véronique. Je ne vais pas peut-être parler si explicitement que ça de violence, même si, évidemment, on peut voir dans ce que je vais raconter, très, très proche derrière, des choses qui ont à voir avec de la violence. Et je vais partir de deux terrains, enfin, du dernier surtout. Donc, j'ai bossé sur la prostitution de rue en Ile-de-France, mais ensuite sur des femmes multipartenaires, hétérosexuelles, et l'espace parisien et comment elles tentaient d'occuper l'espace parisien pour séduire ou se faire séduire. Bien sûr, il y a aussi dans la séduction des rapports de pouvoir très forts qui existent. Et première chose, moi, ce qui m'a frappée pendant ce terrain, c'est combien les femmes que je suivais parfois, que j'accompagnais sur des bouts de trajet et que je rencontrais aussi dans les bars, avaient dû acquérir des compétences particulières pour se sentir à l'aise, notamment la nuit, dans l'espace public parisien. Et au bout d'un moment, il y avait ce paradoxe que je trouvais très, très étonnant. C'est que, par chance, les femmes que je voyais, ont, pour la majorité, n'ont pas été victimes de violences dans la rue. Tant mieux, évidemment. Mais il y avait ce paradoxe où on a une représentation où l'espace public est forcément un espace très dangereux pour les femmes, alors que de fait, comme le rappelait Véronique, c'est dans l'espace domestique qu'elles encourent le plus de risques de violence et parfois de mort. Et à l'inverse, parce qu'il n'y a pas effectivement d'un côté les femmes qui seraient victimes et puis les hommes qui seraient des bourreaux, pour les hommes dont une représentation dit que l'espace public est en quelque sorte leur espace naturel, avec tous les guillemets d'usage pour naturel, c'est là qu'ils encourent le plus de risques de violence, eux. Bref. Mais je vais commencer par une anecdote issue de ce terrain, donc avec des femmes hétérosexuelles et multipartenaires. Une anecdote qui va sembler très légère, mais ça va me permettre de poser ensuite d'autres questions. Cette anecdote, c'est un couple, un homme et une femme, on va les appeler Anne et Pierre, ils ont la trentaine. Ils se sont rencontrés dans un bar parisien, et ils se sont séduits. La première fois qu'ils se sont rencontrés, l'homme a payé un verre à la jeune femme. Ils sont de classe moyenne. Il lui paie un verre. Voilà. Et ensuite, ils nouent une relation un peu décousue, de loin en loin. Et ils se voient régulièrement. Mais très vite, ils décident que... dans leur couple, qui n'est pas vraiment un couple, d'ailleurs, c'est plus des rencontres affectives et sexuelles entre eux, toutes les semaines, toutes les deux semaines, ils décident qu'ils vont sans cesse partager les frais occasionnés par leurs rencontres amoureuses et sexuelles. Et donc, ils le font, comme d'autres personnes m'ont dit sur le terrain, j'ai trouvé l'expression amusante, à la protestante. À la protestante, voulant dire on partage les dépenses. Et donc, à l'inverse de ce que dit Paola Tabé, mais c'est le cas le plus fréquent, là, ce n'était pas un homme qui payait pour le service sexuel d'une femme, mais un partage constant. Et puis, ils partent un week-end prolongé au bord de la mer. C'est un peu la première fois qu'ils décident de passer de plus de quelques heures ensemble. Et donc, pour ce voyage, il faut avancer les billets de train, réserver les nuits d'hôtel, etc., etc. Et là, l'homme du couple, Pierre, on va dire, donc Pierre, paie entièrement à l'avance les billets de train et l'hôtel. Et une fois sur place, Anne se trouve donc en dette vis-à-vis de Pierre. Et ce n'est pas du tout la situation habituelle, puisque d'habitude, ils séparent de manière très, très stricte les dépenses. Et autant Anne, en aparté, j'ai parfois discuté avec les deux en même temps, m'a dit qu'elle avait beaucoup apprécié finalement que la première fois, lors de la rencontre inaugurale, il lui paie un verre. Bon, voilà. Et lors de ce voyage, donc Anne, qui se trouve en dette, va inviter son ami, sans arrêt, au restaurant, boire des verres, etc., etc. Et là, l'homme va dire, mais finalement, moi, j'ai trouvé excessivement agréable, sexy, le terme est employé, d'être, pendant quelques jours, entretenu par mon ami. Alors ensuite, ils sont rentrés à Paris, ce couple, et puis l'histoire s'est délitée sans heurts, je pourrais dire. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Il me semble que la question des violences, ou dans le cas de la domination, a aussi à voir avec cette question de la dette. Et qu'en tout cas, même quand les choses sont réglées à la protestante, il y a toujours de l'argent qui, d'une manière ou d'une autre, circule dans les relations affectives et sexuelles. Mais là, on peut se demander à chaque fois qu'est-ce qui est échangé. dans le mariage, on pourrait dire qu'il y a, ou le plus souvent, ce sont enfin, dans, des hommes qui paient pour le travail sexuel et domestique et beaucoup d'autres choses, des femmes, comme le dit Paola Tabé, qui est une anthropologue italienne. On pourrait presque parler d'une dette incalculée et incalculable, tellement elle est énorme. Dans la prostitution, à l'inverse, c'est quelque chose... Il y a un échange explicite d'argent, une somme déterminée, le plus souvent à l'avance, contre ce qu'on peut à proprement parler appeler un service sexuel. Et la durée de la rencontre va être courte. Toujours est-il que, excepté dans les situations de viol, et je trouve très... Il faut qu'on essaie de comprendre justement ce qui se passe dans le viol, où il n'y a absolument pas finalement de circulation entre de l'argent ou des biens matériels, quels qu'ils soient, pas forcément que de l'argent, et un service. Là, il y a une rupture absolue de ce truc-là. Sinon, en tout cas, ce continuum finalement qu'il y a et qui va du mariage à la prostitution, où tout le temps... il y a de l'argent, des biens matériels, des biens symboliques qui transitent, est particulièrement intéressant à essayer de comprendre. Et je crois qu'on est ici, dans les pays occidentaux, européens, on va parler de l'Europe, dans l'illusion d'une sorte de gratuité de la sexualité qui nous fait parfois poser la prostitution comme une sorte de bouc émissaire qui nous empêcherait de voir que les rapports de pouvoir existent, quelles que soient les formes d'alliance sexuelle et affective. Au-delà de l'anecdote que je racontais au départ, qui est presque un contre-exemple, mais les contre-exemples sont toujours aussi intéressants à penser, Paola Tabé se demande, dans ses textes, il y a une phrase qui est très très forte, elle se demande pourquoi l'homme le plus pauvre peut se payer le service sexuel de la femme la plus pauvre. De fait, lorsque je faisais ce terrain sur les femmes hétéros et multipartenaires, je partais souvent de certains bars, des bars classiques mais simplement ouverts la nuit, et de fait je voyais des hommes souvent très pauvres payer des sommes énormes, on pourrait dire parfois presque des sommes somptuaires pour eux, pour espérer avoir un rapport sexuel avec une femme, ou d'ailleurs parfois ils ne voulaient pas de la sexualité, parfois ni elle ni lui ne voulaient de la sexualité, mais en tout cas il fallait qu'ils paient des sommes excessivement importantes pour de la séduction, quelque chose comme ça. À l'inverse, les femmes que j'ai rencontrées et qui paient parfois pour de la sexualité avec un homme ont, dans tous les cas, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était des femmes qui avaient un niveau culturel et un niveau économique supérieur aux hommes avec qui elles espéraient avoir une sexualité. Et cette inégalité entre hommes et femmes là-dessus, je crois qu'elle est importante à penser et elle a à voir avec des formes de violence, non pas physiques, mais des formes de violence symboliques qui pèsent d'ailleurs peut-être tout autant sur les hommes que sur les femmes. Je ne sais pas si peut-être c'est mieux de laisser la place au débat et que je m'arrête là.
Merci. Merci Catherine Deschamps pour ce point de vue très, très original auquel je voudrais ajouter quelque chose parce que je me suis intéressée plutôt en anthropologue à cette question de la prostitution un peu par raccro, je n'y ai pas vraiment travaillé, mais pour comprendre l'origine de la prostitution. Et c'est toujours cette question d'offre et de demande, et je pense que c'est parce qu'il y a une demande qu'il y a une offre. Mais comment cette chose-là a-t-elle pu apparaître? Et en croisant un certain nombre de données, Il me semble qu'on peut avancer une hypothèse relativement plausible. Je ne peux pas la démontrer absolument. C'est très rare qu'on puisse, sur des grandes périodes historiques, démontrer absolument. Mais compte tenu de cet imaginaire collectif qui dépossède, qui fait que les femmes qui ont cette capacité de faire les enfants des deux sexes, alors que les hommes n'ont la capacité, n'ont même pas la capacité de se reproduire dans leur propre corps, de reproduire dans leur propre corps l'image de leur sexe, bon, a fait que les femmes ont été mises en dépendance. Bon. Mais ça veut dire aussi que toute femme qui n'était pas sous l'emprise d'un homme, un père, un frère ou un mari, était bonne à prendre. Toute femme est bonne à prendre. Donc, ne pas imaginer que le viol, c'est une affaire récente. Le viol a existé de tout temps et ce n'est pas nécessairement non plus une affaire sacrée, bon, comme on a pu le dire pour le viol dans la Grèce antique. Et donc, ce n'est pas une affaire sacrée. Et vraisemblablement, il y avait donc des... Quand il y avait viol d'une femme, qu'on prenait en brousse, en forêt ou ailleurs, bon, c'était une offense faite à l'homme qui avait le pouvoir sur elle. Et donc, on devait payer à cet homme un dédommagement. Alors, on le sait très bien, notamment pour l'Europe, parce que ça a duré très très longtemps, ce qu'on appelait le dol. Le prix du dol, c'était le prix versé au père, au frère ou au mari quand on avait violé sa fille, son épouse ou sa sœur. Bon. Eh bien, la prostitution naît dans la ligne directe de ces deux choses. L'idée que les femmes, le corps des femmes appartient à tout le monde, sauf s'il est protégé par un homme. Et s'il n'est pas protégé par un homme, qu'on peut le prendre. Et à ce moment-là, c'est à elle qu'on paye le prix du dol. Vous comprenez ? C'est à elle qu'on paye le prix du dol. Et la prostitution naît de cette mainmise sur des corps des femmes dont le propriétaire est défaillant d'une certaine façon, on ne se trouve plus là. Donc, si vous voulez, on rencontre cette idée du côté économique que vous essayez de traquer dans les temps modernes, mais qui, je pense, a toujours été là. Ben, je suppose que vous avez apprécié les contributions de ces dames, puisque nous sommes entre femmes. Et maintenant, je pense qu'il est temps de parler avec la salle, si vous avez des questions à poser. Levez la main.
Oui, la question que je me posais, c'est, bon, il y a quand même eu mai 68, il y a eu la libération sexuelle, enfin, qui a été récupérée. Il y a quand même maintenant l'indépendance économique qui est, comme vous disiez, qui est vraiment la base de tout, parce que pour l'autonomie, la femme, il faut qu'elle ait son indépendance économique. Et malgré donc tous ces progrès, je parle dans les pays développés, comment peut-on expliquer qu'il y ait toujours autant de meurtres de femmes, autant de violences ? Parce que normalement, je ne dis pas qu'on a l'égalité, mais enfin, on est arrivé quand même à une période où les femmes et les hommes n'ont pas, bien entendu, entièrement l'égalité, mais on essaye d'y arriver. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi ça perdure toujours. Je ne sais pas si vous avez une explication.
Pour une raison très simple, c'est que le modèle général dont j'ai tracé vraiment uniquement les grandes lignes qui utilise les femmes pour la procréation et pour faire des enfants aux hommes. Ça s'accompagne de toute une série d'imaginaires locaux. Par exemple, il y a des sociétés où on pense que les femmes, de toute façon, feront des filles semblables à elles-mêmes, même s'il n'y avait pas de rapport sexuel. Bon, il est évident qu'il y a toujours des rapports sexuels. On ne peut pas en faire la preuve, mais on pense que les femmes, il faut les dominer pour qu'elles puissent faire un homme, parce que spontanément, les femmes font des filles. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a des imaginaires extrêmement forts. Bon, je prends un petit exemple, celui-là. Mais ces imaginaires, bon, ces petits groupes humains qui se sont reproduits, qui se sont disséminés, ils les ont transportés partout avec eux. Et nous vivons toujours avec. Nous vivons toujours avec. C'est fantastique de voir comme ça à la vie dure. Vous entendez, par exemple... l'histoire de la petite graine, qui dit que c'est le père maintenant. Maintenant, on ne dit plus que les enfants naissent dans les choux, et on essaie d'expliquer aux enfants que ce n'est pas simplement le père qui est le procréateur, que la mère y a aussi sa part, mais que papa met une petite graine. Et bien, quand on dit que papa met une petite graine, on reproduit l'idée que c'est le père qui est le seul géniteur. La mère est qu'un terreau fertile, si vous voulez. le père met une petite graine dans le ventre de maman. J'avais même lu un jour un enfant qui avait si bien retenu sa leçon qu'il disait « Papa met une petite graine dans le trou qui fait les bébés ». C'est-à-dire, c'était même pas une mère, c'était même pas une femme, c'était un trou, dans le trou qui fait les bébés. Donc, il y a tout cet imaginaire, il perdure, et il est extrêmement dur à faire disparaître, parce que nous le reproduisons dans nos actes et nos façons d'être quotidiennes. Il faut une incroyable vigilance sur soi-même en permanence pour lutter contre ce modèle. Et donc, moi, je pense comme vous, qu'avec la lutte qui est organisée, qui est partout dans tous les pays, même, je lis des choses sur le Pakistan, c'est absolument incroyable ce que les femmes peuvent faire. Donc, la lutte, elle existe et elle portera ses fruits. Mais malheureusement, il ne faut pas croire que c'est pour dans 10 ans, ni 20 ans, ni 50 ans. Moi, quand je dis que dans 3000 ans, peut-être, on aura l'égalité sur la Terre entière, je suis sûre que je suis encore très généreuse. Mais moi, je ne vais pas répondre toute seule. Je suppose qu'il y a d'autres qui veulent répondre.
Juste quelque chose. Il me semble que c'est très difficile de répondre à votre question parce que il faudrait aussi poser la question pour les, mettons, je suis complètement Françoise dans tout ce qu'elle dit, et pour la période actuelle il y a la question, mettons, de la violence en général. Il me semble, pour les ethnologues qui regardent les séries télévisées par exemple, il y a deux vecteurs qui mettent en suspens le spectateur. C'est la logique vindicatoire, c'est-à-dire il y a eu une blessure, par exemple le viol d'une femme de la famille, et le vengeur, mettons le mari dont la femme a été violée, les enfants assassinés, va retrouver tel un héros en fureur, tel Achille, etc., en fureur, hein, va retrouver celui qui a fait la blessure, va lui donner le contre-don de la vengeance, Dieu dans les yeux, et va le tuer. Et après, vous voyez, dans un système où il n'y a plus de tiers, il n'y a pas... C'est des choses très peu séduisantes de plaintes à la police, par exemple. Non, pas du tout. Et ça, dans les films d'aventure, dans la logique des récits de fiction, je trouve des BD dévorés par les jeunes générations et parfois par moi-même, par exemple. Et etc. Cette logique vindicatoire masculine, donc la violence masculine, le rêve de vengeance, l'hubris de vengeance, la volupté, la séduction puissante du rêve de vengeance n'a jamais autant flambé. Alors d'accord, il y a mai 68, il y a le droit, il y a l'État, on dépose des plaintes, mais je pose la question de la séduction. On est dans un bain d'images à peu près tout le temps, et maintenant les enfants naissent bercés par les rayons de la télévision, des images, des écrans, mettons. Alors, je ne dis pas, vous voyez, je ne pense pas du tout qu'on puisse faire des laboratoires pour savoir dans quel sens, etc. Tout, le constat que peut faire, mettons, le modeste ethnologue, c'est de dire la séduction vindicatoire masculine ne tombe pas en désuétude. Voilà. Elle tombe sous le coup de la loi, mais vraiment, c'est super à voir au cinéma, c'est pas seulement Jean Valjean, etc. C'est vraiment un truc très fort, très poignant, assez extraordinaire. Le vengeur, bon. Et la fin, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est la question donc de l'érotisme, je ne vais pas dire ce que j'ai déjà dit, contre les femmes, contre leur corps enfantin, beau sur la photo et beau dans la réalité, alors que le corps de l'adulte retouché sur la photo, on le voit au petit matin, il est moche. Bon, la belle mannequin, elle est moche, oh pardon, mais sur la photo, elle est sublime. Bon. Mais l'enfant, il est beau tout le temps. Il est beau, c'est comme le chat, ils sont beaux tout le temps. Je veux dire, il y a cette question, le chat, il est beau tout le temps. Et donc, il y a cette question, si vous voulez, de la séduction et de la peau, de l'érotisme. Est-ce que... Alors, il y a cette question du désir. On pensait que les gens allaient un peu se réprimer. Bon, on l'espère, ce serait la civilisation. Et il y a cette question du pouvoir. Et il y a cette question de comment je fais pour posséder l'autre du point de vue de la domination. Et moi, là, à mon avis, il y a une vraie question. Et ça, encore une fois, puisqu'au même au niveau politique des élites, voilà, on voit la vengeance, la possession, les choses. Les pires films, les pires romans policiers ne sont pas forcément à côté de la plaque, ce qu'on pourrait croire. Donc, vous voyez, votre question, elle est difficile. C'est, c'est toute la question du progrès, etc., même si les violences, je pense quand même qu'historiquement, dans les cités occidentales, par rapport au XVIIe siècle, ça a été démontré, les violences dans l'espace public ont beaucoup baissé, on ne trouve pas des Maccabées le matin à tous les coins de rue, et les femmes ne sont pas obligées de se déguiser en hommes pour sortir, ce qui était le cas au XVIIe siècle, il y a des très belles thèses là-dessus.
Oui, bonjour, c'était un témoignage. En fait, je travaille dans une structure jeunesse de la ville de Paris. Et en fait, on a eu, en analyse de pratique, on a parlé d'un cas, justement, d'un jeune qui venait chercher des préservatifs, un jeune primo-arrivant, et en situation irrégulière, et qui, à un moment donné, parle avec un animateur en disant... voilà, il a voulu lui raconter son histoire, son aventure du soir, et en disant que, voilà... J'ai invité une fille à manger une pizza et en échange, j'ai eu un rapport avec elle. Et en échange, parce que rien n'est gratuit. Et du coup, par rapport à ça, c'était super. C'était pas évident, en fait, voilà, par rapport à sur le coup, de réagir par rapport à ça, d'où les analyses de pratique aussi. Et à un moment donné, on a discuté qui était ce jeune aussi et quelle place il avait dans la société, son invisibilité, parce que sans papier. Parce que son travail aussi. Et voilà, à un moment donné, tout se confond un peu. Donc, les animateurs, bien entendu, ont fait preuve, enfin, ont été moralistes, on parle sur le coup. Mais sur le coup, ça a gêné et ce n'est pas évident non plus à porter ça aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Je pense qu'à Paris et ailleurs, on vit vraiment dans des mondes très confinés. Et voilà, je voulais juste témoigner de ça, c'est tout.
Peut-être dans la continuité de ce témoignage, dire que dans ces bars où j'allais, il y avait beaucoup de jeunes hommes, parfois sans papier, qui pouvaient expliquer à quel point ils se sentaient exclus du marché affectif et sexuel non explicitement marchand, et qu'effectivement, pour eux, la prostitution, pas forcément la prostitution, en tout cas des relations de sexualité clairement transactionnelles, ils le racontaient comme quelque chose de douloureux, d'autant plus douloureux que certains disaient qu'ils avaient le sentiment qu'on vivait dans un monde où dire pour un homme, et notamment pour un jeune homme, plutôt dans les canons classiques de la beauté, moi j'ai besoin d'aller voir des prostituées, alors c'était reconnaître quasiment une forme d'impossibilité à fonctionner socialement là où ils étaient.
Oui, bonsoir. Je voudrais témoigner ce soir. J'ai 65 ans, j'ai été victime, très victime. Et les faits se sont déroulés il y a pas mal d'années. Et si je vous raconte ces anecdotes, c'est pour vous savoir si, d'après vous, je vous raconter des anecdotes sans entrer dans les détails, si, d'après vous, les choses ont changé. Alors, les faits se sont déroulés entre 75 et 87, donc il y a beaucoup de temps. Donc j'ai été victime, agressée, dans la rue. Et comme ça m'est arrivé... sans l'avoir cherché, bien sûr, hein, moi, j'étais un peu atypique parce que j'étais infirmière et je partais tard ou je rentrais tard, toute seule, dans le noir. D'abord, au début, j'habitais le long du canal de Lourdes, qui n'était pas aménagé comme maintenant. Il y avait beaucoup de logements insalubres, ça. Et après, ça m'est arrivé à Aubervilliers. Bon. Et comme j'ai fait la démarche, parce que j'avais été agressée gravement, quand même, d'aller à la police. Ça, je fais court, hein, parce que... Il y a un policier qui me dit « Encore vous ». Ça, c'est la première anecdote. Et la dernière fois que j'étais agressée, c'était en 87. Je connaissais le gars, donc je l'avais fait rentrer chez moi. Donc il n'y avait pas eu d'effraction. Mais c'était une agression quand même. Et le policier, toujours pareil, je vais à Aubervilliers, et il se tourne vers son collègue, il me dit « Oh, faudrait qu'on ait des femmes tout de même. on n'a pas de femme. Vous êtes sûre que ce n'est pas une histoire de couple ? Je dis non, je le connaissais pas, je le connaissais, mais je n'étais pas d'accord. C'est une vraie agression. Et il était complètement débordé. Il ne comprenait pas. Bon, j'en ai encore d'autres, mais je m'arrête là.
Je vous écoute complètement et je vous entends complètement. Le problème de la culture des policiers, il faut vraiment l'anthropologie dans les commissariats. Il faut voir comment bien. L'anthropologie dans le secondaire, comme l'histoire. L'anthropologie, je le dis solennellement ce soir, dans les commissariats. Maintenant, elle est un peu. Parce que, pourquoi ? Parce que la culture des policiers, qui regardent beaucoup les séries télévisées, hein, la culture des policiers, elle est en miroir avec cette culture virile, un peu de l'armée, des corps d'élite, des sportifs, etc. Cette histoire de virilité qui fait que, eh bien, toutes débutent, sauf ma femme et ma sœur et ma mère, eh bien, elle a bien cherché, elle a mis une jupe courte, eh bien, etc. Et c'est depuis les années 70 que tout ce mouvement féministe essaye de pousser les victimes d'agressions sexuelles à aller au poste de police. Et maintenant, le fait que le plus souvent, elles ont été vraiment reçues par des personnes qui étaient incapables culturellement de percevoir la situation. Et notamment, ce fait très précis que la peur sidère, que la victime, au moment où elle est agressée, elle peut éventuellement, surtout si c'est une très jeune fille, ne plus pouvoir bouger. Et après, on lui dit, tu as accepté, tu ne t'es pas battue, puisque vous savez que sous l'Ancien Régime, il fallait démontrer qu'on s'était battu jusqu'au bout. On se bat jusqu'au bout, pendant l'acte sexuel, jusqu'au bout, on meurt. Bon, alors là, on a été violé. Bon. Et donc, si vous voulez, la sidération. Et la sidération que les psychiatres ont découvert, les pédopsychiatres, la sidération qu'une chose physique, on est immobilisé, statut de sel. On dit, tu as consenti. La victime elle-même dit, oui, je ne me suis pas battue, culpabilité. Je ne me suis pas battue, je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas filé, etc. Et donc, si vous voulez, il faut changer la culture de la police. Il faut leur apprendre que la sidération, ça existe. Il faut leur apprendre ce que c'est qu'un rapport de force, ce que c'est qu'un viol. Et bien évidemment, il faut faire attention. Bien évidemment, c'est compliqué. Il ne faut pas non plus que, parce que c'est une accusation terrible, que d'accuser quelqu'un, par exemple, un prof, d'avoir de violer les élèves ou je ne sais quoi. Et donc, c'est une accusation terrible, comme les accusations, je ne sais pas, de sorcellerie au Sénégal, qui tuent socialement, donc on est très prudent. Mais on accepte cette possibilité que ça puisse exister. Et c'est vrai qu'on a un corps social auquel il faut apprendre ce que c'est que ces situations, et dont la culture résiste à toute une frange du réel.
Je me pose la question, c'est les hommes ne sont pas des êtres qui viennent d'une autre planète. Nous sommes toutes les mères de nos fils. Et du coup, je me demande quelle est notre responsabilité à nous, mères, dans l'éducation qu'on donne à nos fils pour améliorer la situation. Je peux imaginer qu'aucune mère n'incite son fils à devenir un violeur, à l'éduquer dans ce sens-là. Donc du coup, quelle est notre responsabilité à nous, chaque femme dans la société, pour que un rapport strictement égalitaire et respectueux existe pour de vrai dans cette société.
Il n'y a pas de recette. Il y a une responsabilité parentale. Bon, vous dites des mères, mais ça pourrait être aussi des pères. Mais cette responsabilité, il convient de l'exercer, et notamment, comme vous le dites, d'avoir l'attitude du respect, l'attitude de conciliation, de tolérance, qui permet d'accepter les autres et de ne pas leur faire du tort. Mais malheureusement, vous n'êtes pas toute seule sur une île déserte avec votre enfant. Vous êtes dans une société. Et les messages qu'il reçoit, et qui viennent très vite en contradiction avec le vôtre, c'est des messages qu'il prend dans la rue, qu'il prend dans la cour de l'école, qu'il prend à la télévision, qu'il prend au cinéma, enfin qu'il prend dans la couleur du temps et la culture locale, et qui est extrêmement séduisant parce que justement, ce n'est pas le message que vous délivrez. parce que je suppose que dans la construction, je ne vais pas faire de psychologie de bas niveau, puisque je ne suis pas non plus psychologue, mais il est vrai quand même, ayant constaté moi-même, qu'il y a un moment où les enfants passent de l'adoration béate devant le discours maternel et paternel, au contraire la récusation la plus absolue. Et donc ce discours qu'ils entendent, le discours ambiant, est totalement généralement contradictoire avec celui que vous pouvez tenir. Et donc ne vous faites pas trop de soucis, vous devez le faire, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui arrivera par la suite, à mon avis.
Et aussi, peut-être ajouter, quand vous posiez votre question, vous vous demandiez comment, en tant que mère, vous pouviez proposer quelque chose en étant responsable. Je suis frappée du fait que c'est plus souvent les femmes qui se demandent comment moi je peux avoir une attitude responsable vis-à-vis de mon enfant. Et c'est se rajouter encore une charge que de penser aussi que ça va être soit en tant que mère qui doit porter cette responsabilité-là, tout particulièrement. Ça peut être tout aussi bien le père, quelqu'un d'autre. Je trouve que ça renvoie presque encore une fois à une forme de culpabilisation qu'on pointe plus vers les femmes que vers d'autres.
Je sais pas si je suis... Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que la mère doit éduquer, la seule responsable, etc. Tout ce qui arrive, c'est à cause de la mère. Mais je voulais simplement soulever le problème de la société patriarcale, parce qu'elle l'est, et de la religion, des religions, quand on sait que Ève est née d'une côte d'Adam, c'est-à-dire que c'est un sous-produit de l'homme. Donc c'est peut-être ça qui fait que dans l'inconscient, plus que, en plus de ça, la femme est plus frêle que l'homme physiquement, etc. Elle est moins musclée, ou je ne sais pas, apparemment. Donc peut-être que ça joue aussi dans notre imaginaire, dans cet imaginaire de puissance de l'homme sur des hommes sur les femmes.
Deux choses sur les religions. Vous nous parlez des religions révélées. Et les religions révélées, disons en gros les religions du livre, même si dans les religions orientales on va trouver aussi le même type de discours. Mais ces religions révélées, elles ont quoi? Elles ont 5000 ans d'existence, enfin, un peu plus peut-être, un peu plus de 5000 ans d'existence. Bon, c'est simplement une redite qui enfonce, disons c'est la religion juive qui apparaît en premier, elle reprend simplement l'ensemble du discours qui a toujours existé avant, et qui est celui de la domination masculine, qui est celui de cette valence différentielle des sexes qui fait que les hommes sont considérés comme supérieurs aux femmes et les tiennent sous le boisseau, et ils le reprennent en faisant un dogme et un article de foi, et en faisant un péché, le fait de ne pas se soumettre pour les femmes. Quand les femmes ne se soumettent pas à la volonté masculine, on parle d'ailleurs du devoir conjugal, bon, c'est un péché du point de vue de l'Église catholique. Donc, en fait, c'est un renforcement par l'Église d'une pensée antérieure, mais qui n'était pas... ils l'ont renforcée en la rendant divine, mais c'était la même qui existait auparavant. Et par ailleurs, pour ce qui est de la façon dont on justifie en nature, en disant que c'est une affaire de nature qui fait que les hommes sont plus puissants corporellement, qu'ils ne sont pas entravés par la maternité, la grossesse, l'allaitement, etc. Et ce qui légitimerait leur autorité, leur domination. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que les femmes peuvent être aussi grandes et aussi fortes, aussi musclées que les hommes, sauf que dans les différentes sociétés du monde, elles souffrent d'une alimentation différentielle qui a privilégié la petite taille chez les femmes et privilégié la taille plus importante. Morphologiquement parlant, ils seront différents. Mais on trouve des squelettes de femmes dont on sait qu'elles ont, ce sont des femmes, mais elles ont une taille analogue à celle des femmes dans des temps préhistoriques. La nourriture que l'on donne à nos enfants n'est pas la même. Et si vous cumulez cela génération après génération, vous obtenez des sociétés où il y a des différences de taille qui sont non seulement souhaitées, mais exigées. On ne mariera pas, dans nos sociétés, on trouvera extrêmement déplaisant de marier un homme petit avec une femme très grande, par exemple. Il faut toujours qu'il y ait un décalage de taille d'une certaine façon. Alors, vous me dites, mais c'est pas vrai, nous ne faisons pas ça. Mais nous l'avons toujours fait, nous continuons de le faire. Bon, il y a une chercheuse, Priscille Touraille, qui a fait tout un travail sur cette alimentation différentielle. Moi, je peux vous dire que dans les sociétés africaines que je connais, les femmes ont très très peu accès à la viande, mais à la bouillie de mil seulement, et aux feuilles de Guinée, d'oseille de Guinée, de baobab, etc., qui font les sauces. Mais la viande, non, non. Et chez nous, quand j'étais petite, pendant la guerre, que j'étais en vacances en Auvergne, je voyais bien que la viande qui arrivait sur la table de la ferme était pour le patron, pour les valets, pour les fils, et puis les femmes se partageaient la carcasse du poulet. Bon, j'entends encore maintenant des jeunes femmes me dire, quand je leur explique ça, me dire vous m'avez fait honte, parce que c'est vrai, moi je donne toujours plus de viande à mon fils qu'à ma fille. Regardez dans les pratiques quotidiennes si ce n'est pas toujours vrai qu'on donne plus de viande au mari qu'à l'épouse, au fils qu'à la fille. Et on a obtenu au fil des siècles, au fil des temps, des corps très particuliers. Et ce n'est pas été au bénéfice des femmes. Parce que ces corps très particuliers souffraient d'un problème très grave, parce qu'on arrivait parfois à des très petites tailles, avec des femmes qui n'avaient pas un bassin ayant une ouverture suffisante pour permettre d'accoucher normalement. Donc elles mouraient en couche sans pouvoir expulser le bébé. Donc il y a une hécatombe féminine absolument énorme dans l'histoire. Il faut bien vous savoir que c'est dû à des pratiques alimentaires différentielles. Donc, ne croyez, quand vous dites que c'est naturel, non, pas du tout. Tout ça, c'est d'autres cultures. C'est pensé dans la tête. Ça a été imaginé, ça a été voulu, ça a été construit.
Le fait, c'était les historiens des 17e, 18e, etc. On s'est rendu compte que les petites filles étaient gardées à la maison très tôt et qu'il y avait certainement un déficit en vitamine D terrible, de même que si on les couvre complètement de voile, etc., qui fait que toute leur formation osseuse en pâtit et toute leur croissance, c'est-à-dire pas seulement l'alimentation, mais l'enfermement à l'intérieur qui peut entraîner au long terme et à bas bruit des catastrophes physiologiques invisibles et après... La mortalité en couche, c'est une des grandes causes de mortalité, de surmortalité des femmes sous l'Ancien Régime dans toute l'Europe. Il y a un historien, Shorter, qui a dit sans doute que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, sans doute personne n'a passé sa vie sans entendre les cris horribles d'une femme qui meurt aux couches pendant 3 jours sous l'Ancien Régime. Tellement c'était, et le thème des marâtres, c'était une cause de mortalité absolument classique et énorme, donc de surmortalité féminine.
Oui, bonsoir.
Le bassin s'appelle la dystocie. Mais on trouve encore des cas de dystocie, mais essentiellement dans les pays africains, les pays sous-développés. Et il y a des pays où véritablement la diète féminine, elle est composée uniquement de ce qu'on appelle des aliments émollients, c'est-à-dire des bouillies. En Inde, par exemple, dans certaines castes, les femmes n'ont pas accès, quand elles sont enceintes et allaitantes, c'est-à-dire au moment où elles devraient avoir le plus de protéines et le plus de nourriture, c'est le moment où elles n'ont pas accès aux œufs, aux poissons, à la viande, enfin à tout ce qui leur apporte du calcium et de ce qui est nécessaire pour leur corps et le corps du bébé. Enfin, si vous mettez tout cela sur des millénaires, ben vous voyez qu'on arrive à une différence de taille. Qui a tendance un peu à s'estomper, d'ailleurs, dans nos pays développés, où maintenant, on nourrit quand même à peu près équitablement garçons et filles. J'ai l'impression que les filles grandissent. Une question.
Oui, bonsoir, mesdames. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir vous parler ce soir. J'en suis toute retournée. Et après, moi, ce sur quoi je m'interroge, c'est ce qu'on appelle, ou du moins ce que j'entends appeler, le fantasme du viol, qui serait en fait un espèce de désir inavoué qu'on entretiendrait tous, hommes comme femmes, qui serait en fait donc un désir d'un rapport sexuel, a priori indésirée ou du moins qu'on n'aurait pas prévu avec un inconnu pour en tirer au final du plaisir. Donc fantasme qui ne serait fantasme qu'à partir de la condition où il ne se réaliserait pas. Et je voulais vous demander si vous pensez qu'un tel fantasme existe ou si ce serait simplement quelque chose que la culture du viol essaierait de nous faire croire.
Dans la culture, donc ne parlons pas, je trouve qu'il faut vraiment séparer l'échelle de l'objet. C'est-à-dire que, comme dans toutes les disciplines, si on parle d'une personne et de ses fantasmes, on tombe dans le puits de sa biographie, de sa psychanalyse, etc. Où est-elle ? Ah voilà, c'est bon. C'est une problématique. Si on tombe dans un puits, il faut faire un roman sur cette personne et son fantasme du viol. Et on en a des romans sur les fantasmes du viol. On en a. On a de quoi faire. Oublions le sujet et mettons la chose en situation, donc dans une culture donnée. Non seulement c'est un thème puissant, mais semble-t-il, c'est une rêverie permanente. Moi, je me souviens, un des témoignages des jeunes qui avaient été à l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie, pourquoi vous partez pour le viol ? Bon, ah bon, bon. Il semblerait quand même que la virilité, la masculinité se construit avec cette idée que c'est une performance, quand même, de posséder sous la violence quelqu'un. Et la chose est d'autant plus compliquée que le dire non est difficile, puisque dans tous les films, par exemple, prenons les livres de la série Harlequin. Dans tous les livres de la série Harlequin qui sont fabriqués par les ordinateurs, au début, l'héroïne, n'est-ce pas, il y a un type très séduisant, mais très méchant, plus âgé, l'aventurier balafré, et elle est exquise, charmante, etc. Et à un moment, à la page tant du livre, toujours le même, son corps, ses lèvres disent non, mais son corps dit oui quand il se rapproche. Donc ses lèvres, et donc, elle dit non, 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 mais elle pense oui. Et cette idée culturelle qu'elle dit non, mais elle pense oui, est une chose qui a vraiment fait beaucoup de mal à l'humanité, je dirais, et qui est très inscrite. Alors, est-ce que c'est le fantasme du viol ? Laissons le côté un peu pathologique, la question du fantasme du viol, et sans doute bien sûr, pour tel, ou je ne sais quoi. Et ça, mais du point de vue de la situation, il est clair que notre culture de la virilité, on sait que le viol, c'est pas bien, etc., mais il y a cette idée très forte que elle dit non, mais son corps dit oui. Et ça, je pense que... Vous voyez, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais je pense quand même que c'est une chose puissante qu'il faut déconstruire. Parce qu'elle peut dire non en riant, parce que ça accroît, je ne sais pas, l'excitation de la scène. Mais à un moment, elle dit vraiment non. Quand elle peut dire non et non. Alors, et là, quand même, elle peut... si vraiment elle se défend, là, c'est fini. On rigole plus du tout. On a changé de registre. On est passé à la violence. Et c'est ce passage qui est dénié par le violeur. Et alors parce que c'est un bas de plafond, un crétin absolu, peut-être, mais peut-être aussi parce que là, c'est pour lui, ce qu'il veut, c'est la souffrance d'autrui. Donc, voyez, c'est une chose. Mmh. Moi, j'ai pas de réponse directe à vous donner sur est-ce qu'il existe ou pas, mais oui. on constate sa puissance de séduction en scène. Je vous ai une chanson. Vous aviez cité.
Oui, justement, voilà. Je voulais revenir. Bien sûr, il y a tout ce que Véronique dit, mais qui renvoie à cette idée. Où je disais au début que le corps des femmes, tous les hommes pensent qu'ils peuvent y avoir accès, au corps de toutes les femmes, que c'est normal. Et donc, il va y avoir, dans le langage culturel des différentes cultures, des différentes civilisations, presque une apologie du viol. On le rend désirable. Alors, prenez par exemple la statuaire. Quand vous voyez l'enlèvement des Sabines, bon, ou vous voyez l'enlèvement d'Europe par Jupiter, c'est pour les violer qu'on les prend. Hein. Elles ne se laissent pas faire. Bon. C'est un corps nu qui est emporté sur un cheval, sur un taureau. Mais on vous présente ça, c'est une œuvre de beauté. On vous présente ça comme quelque chose de désirable. Et dans mon enfance, parce que je ne l'ai plus entendu tellement chanter cette chanson, mais il y en a deux chansons qu'on apprenait à l'école. Qu'on apprenait à l'école, et je pense que vous les connaissez. Jeanneton prend sa faucille, la rirette, Jeanneton prend sa faucille pour aller couper des joncs. En chemin, elle rencontre la rirette, en chemin, elle rencontre quatre jeunes et beaux garçons. Le premier lui tapota le menton, le deuxième, un peu moins sage, caressa ses beaux tétons. Le troisième la coucha sur le gazon. Ce que fit le quatrième, la rirette, ce que fit le quatrième n'est pas dit dans la chanson. Et on incite toutes les jeunes filles à partir couper des joncs. C'est très agréable. Un garçon qui va vous tapoter le menton, vous couchez sur le gazon, soulevez votre jupon. Ils sont quatre, oui. Ils sont quatre. Et puis, il n'y a pas que celle-là. Nous étions 10 filles dans un pré. Vous la connaissez ? Le prince arrive. À chacune, il donne quelque chose. Selon sa, il leur donne une pomme pour le déjeuner. Il leur donne une bague. Il leur donne. Il les invite à. Et puis, pour finir, il les invite à. À coucher, à toutes, il offre un lit de paille, sauf à la Dumaine, à qui il offre un lit. Et pour finir, il les chasse toutes, et il n'en garde qu'une avec qui il couche, c'est la Dumaine. Et on rêvait toutes d'être la Dumaine. On nous apprenait ça à l'école. Je ne sais pas si vous avez conscience de l'importance de la chose.
Une question.
Oui, j'entends beaucoup de femmes parler, mais moi, j'ai vécu 2 ans avec une Camerounaise. En dehors de ça, j'aimerais dire en préambule que je pense que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont différents. Et à partir de ce moment-là, ils sont égaux en droit, mais ils sont différents. Ça, pour moi, c'est une chose. Mais moi, j'ai vécu 2 ans avec une femme camerounaise qui était un peu moins grande que moi. J'ai reconnu une de ses filles et sa fille était drépanositaire. Et quand elle est arrivée en France, la maman l'a tabassée comme j'ai jamais vu une femme tabasser un enfant. Et je ne parle pas de chicoter un enfant, je parle de tabasser. Et en fait, moi, je passais mon temps pendant 2 ans, à séparer la mère de la fille. Et au bout de 2 ans, la mère, en fait, qui n'était pas plus grande que moi, et aussi musclée que moi, me foutait sur la gueule. Et en fait, elle attendait qu'un truc, c'est que je lui mette un marron et que je lui laisse une trace pour aller porter plainte à la justice. Chose que je n'ai jamais faite parce que j'avais conscience de ça. Donc, il fallait que je défende la gamine, qui est toujours ma fille, puisque maintenant, elle porte mon nom. J'ai viré la Camerounaise et on reste relativement en rapport. Enfin, en rapport, je dirais, en relation. Mais il n'y a pas que les hommes qui tapent sur les femmes, il y a aussi des femmes qui tapent sur les hommes ou qui tapent sur les enfants, et les hommes qui défendent les enfants qui tapent sur les femmes. Ça existe aussi. Et ça, c'est un cas un peu particulier, mais je tenais à le signaler. Voilà.
Juste répondre quelque chose. Monsieur, je suis désolée, je suis un peu dure d'oreille et je n'ai pas compris le tiers de tout ce que vous avez dit, mais j'ai entendu tout de même quelque chose au début et je voudrais revenir là-dessus avant de passer la parole à d'autres qui souhaitent la prendre. Vous avez parlé d'égalité. Les hommes et les femmes n'étaient pas nécessairement. Qu'ils étaient différents et pas nécessairement égaux. Égaux mais différents. Ah oui. Égaux mais différents.
Alors c'est très exactement. Excusez-moi. Égaux mais différents. Je dis qu'ils sont égaux en droit. Oui. Mais en fait, à mon avis, ils sont différents.
Ah oui. Non. Mais alors voilà. c'est là où il y a des choses à dire. On est différents en ce sens que l'on est. Qu'on est programmé pour des choses différentes. Voilà. Les hommes ne feront pas d'enfants.
Bon,
peut-être que si ça arrive un jour, ça sera une grande révolution dans l'humanité. Parce que c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui cherchent à faire porter des enfants dans certains tissus du corps humain masculin, le péritoine.
On est d'accord.
Le péritoine et également les testicules. C'est les deux endroits où un homme pourrait porter un enfant. Mais enfin, pour le moment, il n'y a pas tellement de volontaires pour ce genre d'expérience. Mais que les hommes soient différents, et hommes et femmes soient différents, c'est une chose qui veut dire quelque chose de très particulier, mais qui n'implique pas la hiérarchie.
Bien sûr, bien sûr.
Il n'implique absolument pas la hiérarchie. Le grand problème de discours ambiant, c'est qu'on confond différence avec inégalité.
Exactement.
Qu'on entend par différence la notion d'inégalité.
Exactement.
Alors que c'est deux choses à construire tout à fait à part l'une de l'autre.
Je suis d'accord avec vous.
Mais comme je n'avais pas vraiment compris, je préfère donner la parole.
Je m'excuse, mais parce que j'ai du mal à parler. J'ai un dentier, il s'avère que... J'ai beaucoup de mal à prononcer les mots.
Je suis désolée de prendre la parole pour la deuxième fois, parce que c'est pas bien de ma part, mais c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas du tout abordé ce soir, c'est l'aspect psychologique ou psychanalytique de la violence. Moi, je voudrais... Alors, bien sûr, vous êtes anthropologue, Madame Héritier, bien sûr, mais je ne sais pas si vous connaissez Alice Miller, qui a écrit « C'est pour ton bien », qui parle de la maltraitance à enfants. Et elle et tous les gens qui sont sur sa lignée, enfin sur ses idées, disent que les gens qui commettent des violences, alors parlons par exemple des violeurs ou des hommes qui tuent leurs femmes, ça ne vient pas du ciel, ça tombe pas du ciel. Les monstres ne sont pas naturels, ils sont fabriqués. Et donc tous les gens qui commettent des crimes et qui font du mal à autrui ou qui s'autodétruisent eux-mêmes ou qui détruisent l'environnement, ce sont tous, d'après Alice Miller, que je trouve formidable, c'est une autrichienne, et je conseille à tout le monde de lire son livre, C'est pour ton bien, Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant. Et Alice Miller, elle dit que tous ces gens qui commettent des violences ont eux-mêmes subi des violences, tous. Donc là, ça repositionne d'une autre façon le problème de la violence exercée sur autrui. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de ce qu'on a subi quand on était petit. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Je ne sais pas.
Je voudrais juste reprendre très rapidement la parole. Mais d'ailleurs, pour remercier Catherine et Véronique d'être là, si chaleureuses. Mais ça, c'est vraiment... J'avais oublié de le faire. Et je voudrais répondre juste rapidement à monsieur, parce que demain, justement, venez, il y a le débat et femmes auteurs de violences. Donc, c'est exactement ce dont vous parlez. Nous sommes toutes bien conscientes qu'il y a une ambivalence et qu'il n'y a pas que des hommes qui tapent des femmes et que, bien entendu, même s'il y a des schémas dominants et un schéma masculin-féminin très prégnant dans l'histoire de l'humanité, il n'empêche qu'il y a des violences commises par des femmes. Et il y a ce remarquable livre de Colleen Cardy et de Geneviève Prouveau qui a été publié il y a peu de temps sur « Penser la violence des femmes ». Et c'est exactement ce dont on va traiter demain. Moi, je voulais juste dire ça.
Sur la question de la psychanalyse, moi, il me semble que dans une famille, il y a les choses qui sont dites, il y a la communication non verbale, donc on est à l'échelle d'une famille. Il y a les trajectoires et certains psychanalystes, dont Alice Miller, font remonter les faits de destin à 3 générations au moins, avec les effets de secret, des non-dits, etc. Et là, on a l'impression, effectivement, que les lignées de violence ou de etc. ne dépendent pas du masculin-féminin. Et peut-être qu'à l'échelle de la famille, d'une famille, la question de la causalité est tellement complexe qu'on pourrait faire rentrer toutes ces strates de causalité, c'est-à-dire le cadre culturel de la valence différentielle des sexes et les trajectoires. Et c'est tellement délicat, finalement, et tellement non-verbal à l'intérieur de la vie familiale que l'enfant, même la question de la mère qui devrait dire, quand elle dit, c'est déjà trop tard, ça doit transpirer, la qualité du lien doit transpirer d'une façon ou d'une autre, peut-être dans des gestes ou que sais-je. Et donc, ou dans ce que des gens pensent sans le dire et qui circulent quand même. Et donc, je dirais que votre question, à la fois, elle est très juste, très forte, mais ne faisons pas le combat des causalités. Vous voyez ce que je veux dire ? Hélas, le réel est assez complexe pour introduire ça, les lignées de gens battus qui battent et qui sont à la fois... n'oublions pas que bien des gens battus ne battront jamais. C'est pas tous ceux qui ont été battus ne battent pas, c'est tous ceux qui battent, il y a des chances pour qu'ils aient eu des blessures terribles, etc., qu'ils aient été battus. Mais tous ceux qui ont été battus ne battent pas, heureusement. Donc, ce n'est pas une pure reproduction, etc. Et donc, dans ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a
d'une chercheuse américaine, enfin un groupe cité dans le livre de Laurent Beck sur l'agressivité, qui dit que dans cette vision différentielle des sexes, mettons dans les écoles, où la petite fille, on va interpréter les pleurs de la petite fille comme du chagrin, et on va être assez doux avec elle, alors que le petit garçon, on va tout de suite le frapper, le petit dur, le petit violent. Et elle dit, au fond, la virilité, c'est une maladie des garçons qui ont des coups très tôt, auxquels on inculque la virilité comme une espèce de violence qui les blesse et qui se termine les grands taiseux, qui donnent des coups, qui ne peuvent pas dire un mot, qui vont boire des coups et donner des coups au lieu de parler, etc., pendant que les femmes sanglotent et discutent, toute cette espèce de stéréotype qui serait une violence faite aux hommes aussi. Et on peut souvenir dans le pauvre Charles, le pauvre mari d'Emma Bovary, auquel à 4 ans son père obligé à boire des alcools forts, à dire des injures et à cogner. Et pour lui inculquer la virilité. Donc ce que je veux dire, c'est que vous dites qu'ils ont été battus, mais peut-être les garçons sont battus. Et les féministes, ce sont les féministes qui s'occupent des genres et donc des identités des deux sexes qui doivent dénoncer ça.
Je suis féministe. Véronique, on se connaît depuis la Bosnie-Herzégovine. Je suis au troisième rang. Voilà. Oui, les garçons, bien sûr, qui ont vécu des violences. Mais je pensais pas prendre la parole pour ça, mais je vais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit et de l'intervention précédente. C'est pas parce qu'on a été maltraité qu'on devient maltraitant, bien évidemment. Mais on commence à s'interroger sérieusement à l'impact et les conséquences sur les garçons et sur les filles dans les violences conjugales, justement. Puisqu'on s'occupe bien sûr évidemment des femmes victimes de violences domestiques, mais également de ce que vivent les enfants qui sont témoins de ces violences, et particulièrement entre autres les garçons, puisque c'est un homme qui frappe une femme, et les filles qui sont évidemment également témoins des violences que leur père ou leur beau-père, commettent sur leur mère. Donc il y a des études maintenant de plus en plus sur savoir justement par la suite comment vont être ces futurs hommes dans leur couple. Voilà. Ça c'est une petite réponse. Maintenant effectivement en tant que militante féministe, c'est fatigant de se dire qu'en 2014 on a eu si peu d'avancées en réalité, même s'il y en a. En France, bien sûr, sur la planète, toutes ces problématiques de violences faites aux femmes, que ce soit les excisions, les raptes des femmes actuellement par des sectes ou des intégristes ou des forces armées, on se demande ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles ont pu subir. Je pense à celles enlevées par Boko Haram. On continue à enlever des jeunes filles et des jeunes, entre autres, parce qu'elles ne doivent pas aller à l'école. Parce que les femmes et les petites filles ne doivent pas aller à l'école, elles doivent avoir ce rôle de mère et de reproductrice pour donner des êtres humains, et particulièrement des mâles si possible. Bon, je vais pas faire la liste de tout ce qui peut être des violences faites aux femmes, puisque il y a une photographe par rapport à cette exposition et la question de la prostitution. Je voulais dire que je ne sais pas ici si les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Il y a eu une manifestation contre les violences faites aux femmes samedi entre Bastille et République, et le syndicat des travailleurs du sexe, le STRAS, une fois de plus a fait son intervention avec du faux sang là sur le passage. Et ce soir, il y a une marche féministe de nuit, justement pour dire aux hommes, la rue ne vous appartient pas. Nous, les femmes aussi, nous pouvons être dans la rue et le soir, puisque la nuit, nous avons quelqu'un qui a parlé d'agression. Et c'est vrai que les femmes seules dans la rue, la nuit, ont intérêt à souvent longer les murs et à se dépêcher, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Je crois que toutes les femmes sur la planète ont intégré très tôt, très jeunes, qu'elles pouvaient être victimes de violences verbales, physiques, sexuelles. Je crois que c'est quelque chose qui est intégré par toutes les petites filles et donc les femmes sur Terre depuis des millénaires, ce que les hommes, évidemment, ne savent pas forcément. Concernant juste, et je vais finir, la question de la prostitution, ça fait grand débat en France, mais quand même, ça, depuis 2 ans, on a le mérite d'avoir questionné je ne sais pas, c'est pas un métier, il n'y a pas de service sexuel, je ne sais même pas comment dire ce que représente la prostitution pour des femmes qui en sont victimes, oui, on va dire victimes. Mais toujours est-il qu'il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale pour la pénalisation du client, et comme dans certains pays d'Europe du Nord. Et la loi qui n'est pas encore passée au Sénat, hein, parce que je pense que les sénateurs résistent à cette question de pénaliser les clients. C'est-à-dire que quand même, en France, on s'interroge, et c'est quand même récent, sur qu'est-ce que la prostitution, et doit-on non pas justement pénaliser les prostituées, les éloigner, les arrêter, leur donner des amendes, mais questionner ces hommes qui font, comme vous l'avez dit, Madame Héritier, où est la demande ? Voilà, je m'arrête là.
Je propose...
Dernière question, pardon, voilà. Parce que le temps a passé plus vite que... Enfin, passé très vite. Alors, il y a une dernière question. Je sais plus, quelqu'un s'était proposé, oui. Je crois.
Tout d'abord, il se trouve que j'ai entendu récemment une émission qui revenait sur le texte de la Bible en parlant qu'il y a eu des erreurs de traduction. Et que en fait, la femme n'est pas, Madame a osé dire le mot sous-produit. Alors là, je m'insurge. Et en fait, c'est la femme est constituée, a été constituée à partir du côté de l'homme. Donc ça veut dire que c'est strict équivalente. Et c'est pas à partir d'un bout d'os. Voilà. Il y a un ouvrage qui doit apparaître là-dessus. Par ailleurs, moi, il se trouve que au niveau hormonal, on peut pas nier les différences. Donc, il suffit de voir ce qu'une sportive sous testostérone produit comme muscle. Donc, je comprends pas bien, Madame Héritier. J'admire la plupart de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous dites. Mais là, la testostérone, c'est un fait. On peut pas nier que ça a une action à la fois sur le développement musculaire, sur la stature et sur le comportement. Donc ça, on ne peut pas le nier. Et concernant les violences physiques, on sait bien que la majorité, plus de 95% des personnes en prison sont des hommes. Du point de vue de la violence, là, il y a une stricte asymétrie.
Je ne suis pas sûre de tout. Là aussi, c'est pareil. J'avoue que je n'entends que partiellement la totalité des questions. J'ai entendu parler de... La oui, mais la testostérone n'est pas uniquement l'apanage des hommes. Hein. Les femmes aussi fabriquent, non ? Les femmes aussi fabriquent un petit peu de la testostérone. Non, je ne nie pas du tout. Je ne nie pas du tout qu'il y ait une action hormonale, notamment sur l'exercice physique et l'exercice cérébral. Je reconnais les différences. Les différences qui existent dans nos morphologies, mais qui n'existent pas dans le fonctionnement de nos organes. Et on ne peut pas dire qu'il y a une pensée féminine qui serait différente d'une pensée masculine. On a cherché par tous les moyens de montrer que le cerveau des femmes pesait moins lourd, qu'il n'était pas organisé de la même manière, que les synapses étaient moins nombreuses, et qu'il ne savait pas latéraliser. Enfin, on a cherché de toutes les façons, et il y a encore quelques années, était paru un livre américain qui essayait de montrer en quoi les femmes étaient, par leur organisation cérébrale, différentes, mais inférieures des hommes, bon, inférieures aux hommes, aux capacités masculines. Moi, ce que je remarque simplement, et pas seulement moi, mais à travers des travaux de psychologie ou des travaux d'ethnologie, les dressages mentaux qui permettent de penser comme cela. Par exemple, imaginez une entreprise de psychologie qui a été menée à l'école des hautes études en sciences sociales. Bon, du temps où il y avait des psychologues, mais il s'appelait Meller, je crois, je ne me souviens plus très très bien. Vous demandez à des mères de venir avec leur bébé entre 6 et 8 mois, garçon comme fille, pour un test d'aptitude. Et on le fait faire aux enfants d'abord, sans les mères. Et ce test consiste à mettre les bébés sur une planche horizontale. Et cette planche horizontale, on la fait varier en montant ou en descendant selon un certain degré. et on regarde les capacités des garçons et des filles à suivre le mouvement en montant ou en descendant. Et on trouve qu'ils font exactement la même chose. Garçons comme filles font exactement la même chose. Et puis on demande aux mères de rentrer. Et on leur dit, vous allez faire cette expérience avec vos enfants. Alors, on leur explique que l'expérience consiste à calculer la capacité de monter ou de descendre du gamin. Et c'est elles qui doivent régler la planchette. Elles estiment toutes que leur fils peut faire deux fois plus et leur fille deux fois moins. Toutes. Parce qu'on leur a dit que c'était comme ça. Bon. Vous avez des écoles, des tests également, qui ont été menés aux États-Unis. Bon. Où on présente un moteur à une classe en disant un schéma de moteur à une classe. Non, c'est en France. Un schéma de moteur à une classe. Et on dit, c'est un moteur en classe de dessin, prière de le reproduire. Et les filles disent, oh, un moteur, c'est trop difficile, nous, on n'y arrivera pas. Non. D'accord ? On revient, on passe dans une autre classe, on présente le même moteur, schéma de moteur, en disant, voilà un diagramme, un dessin qu'il faut reproduire. Les filles, elles le font sans problème. Bon. Alors, on a plein de choses de ce genre qui prouvent que les cerveaux fonctionnent de la même manière. Nos organes fonctionnent de la même manière, sauf le fait qu'il y a des organes différents, que nous avons un utérus et que les hommes n'en ont pas. Mais autrement, pour les organes, oui. Et une des choses que j'ai remarquées, moi, sur mon terrain, j'ai mis longtemps à le voir, je vous assure, des années. Bon. Je m'apercevais que les femmes avaient un comportement différencié au cours de la journée quand elles portaient un bébé dans le dos. Le bébé, on le nourrit quand il pleure, généralement. Bon. Et ces bébés, donc, pleuraient. Et je voyais des femmes s'arrêtaient de faire leur activité. Elles pilaient, elles cuisaient, elles portaient du bois, elles portaient de l'eau. Et elles s'arrêtaient pour donner le sein au bébé. Puis d'autres fois, non, elles continuaient. Et même parfois, elles se débarrassaient de l'enfant pour le donner à une fillette pour pouvoir continuer leur travail en paix. Et j'ai vu ça pendant des années. Et c'est tout à fait sur la fin de mes séjours, disons, j'ai passé presque mes séjours pendant 20 ans, et c'est tout à fait à la fin que tout d'un coup, je me suis dit, j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu qu'on donnait à boire aux petits garçons dès qu'ils pleuraient, et aux filles, on les faisait attendre. Alors, quand j'ai bien eu observé ça sur un certain nombre de cas significatifs, j'ai demandé, mais pourquoi ? Et on m'a dit, ben parce que les garçons... Alors, c'est le coup de la testostérone. Ils ont le cœur chaud. Et comme ils ont le cœur chaud, et le mot chaud, qui veut dire beaucoup de choses, dit aussi être en danger, risquer d'être malade, y perdre la vie, même en s'époumonant. Donc, on ne veut pas que le garçon s'époumonne et donc risque de claquer, si vous voulez, en s'époumonant, parce qu'il n'aurait pas été satisfait tout de suite. Donc, on lui donne tout de suite. Et les filles, pourquoi vous ne leur donnez pas ? Ah, les femmes n'auront jamais ce qu'elles désirent dans leur vie, alors autant le leur apprendre tout de suite. Bon. Autant le leur apprendre tout de suite. Ben, c'est pas beau, ça, comme dressage. Et c'est vrai, je l'ai vu. Alors, vous avez de la sorte des garçons qui considèrent qu'il suffit de claquer dans les doigts pour avoir ce dont ils ont besoin. Et c'est normal. Ils n'étaient pas au sein depuis 8 jours, que leur mère les satisfaisait immédiatement. Et puis des filles qui seront soumises toute leur vie parce qu'on sait qu'elles n'auront jamais droit à être satisfaites. Alors autant de leur apprendre tout de suite. Et bien, je trouve que c'est le plus bel exemple que j'ai rencontré. Et je peux vous garantir qu'il est authentique. C'est chez les Samo du Burkina Faso.
Merci.
Alors maintenant, excusez-moi, je crois que j'allais passer la parole encore à quelqu'un, mais je crois qu'il faut que nous arrêtions. Je crois qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère que vous avez... était intéressé, peut-être appris des choses, et que peut-être vous aurez envie de recommencer une autre fois. Voilà, au revoir.